J'en ai une autre.
Ah, vas-y.
Pourquoi est-ce que certaines vaches ferment les yeux quand...
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Contraire.
Je sais pas.
C'est pour faire du lait concentré.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le jeudi, ça allait se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Camille.
Yes!
Ah, le piège!
Je suis passé devant, je suis passé devant.
J'ai changé d'ordre un petit peu.
Passé devant,
c'est juste parce que t'étais pas là.
Oui, que Camille a la pêche. Et Hicham.
Oh là!
Ah, olé. Je sais pas. Hola, olé.
Oui, très bien.
Chocolat,
ça
olé. Voilà.
Oui.
Voilà. Et, pourquoi pas. Et bah, cette fois-ci, voilà, on sera entre nous parce que ça faisait longtemps.
C'est vrai.
Parce que voilà, après toutes ces
personne
aventures.
Personne ne
de,
nous aime.
Si, en vrai, il y a plein de gens qui nous aiment, mais on aime bien s'aimer entre nous, même si ça paraît bizarre dit comme ça.
Non, c'est pas bizarre, c'est juste qu'on assume voilà, les relations qui nous unissent.
Et puis c'est mieux que s'aimer tout seul. Parce que, bon, c'est un autre sujet, ça. Mais non mais c'est sympa de temps en temps après toutes ces aventures avec un live au Splendid devant énormément de personnes après la fine équipe de Breaking All News.
Oui.
Ça nous a fait très plaisir de les recevoir. Et
c'est beaucoup plus calme là du coup.
Ceci dit, c'est vrai que c'est un des pré-recs les plus rigolos.
Ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé aussi fort avec vous quoi.
Ah.
Que vous n'êtes pas aussi drôle que.
Ok, c'est sympa. Non, mais voilà, écoutez, si vous ne l'avez pas encore écouté, cet épisode est très cool. C'est l'épisode 2 de la saison 4 avec Breaking All News.
L'épisode juste avant celui-ci dans la liste, quoi.
Exactement. Et en plus, depuis Breaking All News, ils ont gagné le prix Podcast EO du meilleur podcast de l'année ou un truc comme ça. Donc voilà, on est content pour eux. C'est très chouette. Mais du coup, de quoi on va parler aujourd'hui?
Et ben c'est Camille qui commence.
Oui, et tout à fait. Et moi, j'étais pas là, du coup, à cet épisode absolument incroyable de l'ambiance.
Et est-ce que tu l'as écouté?
Mais alors, j'ai commencé à l'écouter et
allez,
j'ai pas fini.
Le soutien.
Et non, mais au moins, je suis honnête.
À quelle partie?
Oh, bah, toutes.
Très bien.
Non, mais je l'écoute au fur et à mesure. Et voilà. Et donc.
Il te manque un peu de fur et un peu de mesure, mais vas-y. Donc, tu vas parler de quoi?
Donc, moi, j'étais pas là parce que j'étais en vacances.
Ah oui, ah bah bravo.
Ouais, super, super. Ah, et du coup, j'étais.
On voit où est-ce que nos impôts ils partent. Hein.
Ça suffit, oui. Et j'étais en vacances à San Francisco.
Ah!
Et c'est beau. Enfin, et du coup.
C'est quoi, ça fait beaucoup de chemin pour se rendre compte de ça, quoi.
Voilà. Je suis arrivée, j'ai fait c'est beau, je suis rentrée. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler du Golden Gate Bridge.
Yeah.
Trop cool.
Voilà.
Et sans aucune blague, au passage, je vous conseille de suivre le compte Instagram de Camille parce que tes photos avaient l'air. Enfin, étaient trop ouf et ça avait l'air magnifique ce que t'as vu.
C'était beau.
Oui, c'était très classe.
C'était très, très beau.
Donc, on vous conseille de la suivre. En tout cas, les photos sont très, très cool. Notamment le magnifique. Yosemite, ouais.
Oui.
Très classe.
Ouais, j'ai bien kiffé, ouais.
Et après, ça sera moi, je sais pas pourquoi je me tourne vers Hicham. Après, ça sera moi, je vais vous parler de l'homéopathie, parce que ça fait partie des choses dont on parle beaucoup, mais qu'on n'explique pas toujours.
C'est vrai.
D'où ça vient, comment
c'est
ça fonctionne,
si
ou
c'est
pas.
Tu parles de ces petites boules sucrées?
Pas que. Et c'est le truc intéressant du sujet.
C'est ce que ça m'évoque.
Justement, j'ai appris que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc, je serais content de partager ça avec vous et de partager mon malaise sur le sujet aussi, vous verrez.
Très bien.
Cool.
Après, on aura un reporter sur
comme
le terrain.
Comme d'hab. J'ai pas une équipe qui gagne. Hein.
Tout ça reste pas Juanito?
El Rey del Tango.
Olé!
Effectivement. Et puisqu'on parle de olé, on va passer au sujet d'Hicham après.
Ouais, moi je l'ai annoncé sur Twitter et pour mon plus grand.
Twitter.
Pour mon plus grand plaisir, la chronique musicale est de retour.
Oui! Yeah.
Et cette fois, je vais pas vous décortiquer une œuvre comme je fais d'habitude.
Putain, on aurait pu appeler ça la chronique ta mère.
What?
Pardon maman, la chronique
ta mère. Mais n'importe quelle chronique peut être la chronique ta mère.
Oui, bah oui.
Mais, ce sera la tienne.
Mais ça marche avec pardon maman.
Voilà. Ouais, du coup, bah, je vais pas faire ça. mais je vais plutôt vous parler des mariachi et de comment c'est devenu aussi connu dans le monde.
Yeah. Bah, j'ai trop hâte. Connaissons ton jingle. Bon, j'ai hâte aussi que vous l'écoutiez.
Est-ce que tu vas nous la faire avec l'accent mexicain?
Oui. Non, bah non, on va pas faire ça. bah, sur ce, est-ce qu'on commencerait pas? Faut que je trouve des nouvelles transitions.
Ouais. Oui, mais le sur ce, moi j'aime bien. C'est, en fait, je m'y fais, tu vois.
C'est comme le en parlant de ça, est-ce qu'on commencerait pas par Karine?
Exactement. Allez.
Du génie civil, le pont de Tancarville, le Golden Gate de San Francisco.
Tu crois que je peux m'envoler de ce pont?
C'est haut, hein.
San Francisco, sans brume. San Francisco, s'allume.
Et en parlant de cette chanson, et bien, un des premiers trucs que j'ai fait en allant à San Francisco, c'est que j'ai...
T'as cherché cette putain de porte bleue?
Alors, maison. Une fois de plus, hein, je vais réitérer comme au live... Pardon maman, mais je l'ai traîné dans tout San Francisco pour qu'on trouve. Je l'ai fait monter, je l'ai fait descendre, mais on l'a trouvé et j'ai vu la maison bleue.
Elle est belle.
Elle est très jolie, elle est à vendre, un peu plus de 3 millions de dollars pour ceux que ça intéresse.
C'est une somme.
Et j'ai dans mon, dans mon téléphone la photo de la carte de visite de la meuf qui vend. Si jamais ça intéresse des gens parmi vous.
Vas-y, chiche, on partage ça. Imagine, elle se vend grâce à nous. Non, par contre, attention, on a des auditeurs qui sont millionnaires et qui nous ont pas payé des millions. En fait, que par là.
Qui ont vraiment payé.
Non, mais si après ils nous invitent à enregistrer un épisode dans la Maison Bleue de Maxime Le Forestier.
Okay. Si ils me payent le visa, moi je suis chaud. Hein.
Bah, le visa, le billet d'avion et voilà, le Big Mac.
Ce sera qu'à ce niveau-là, ça peut se permettre.
Exactement. Mais bref, moi je suis pas là pour vous parler d'une Maison Bleue, mais je suis là pour vous parler d'un pont rouge.
Mais voilà.
Le Golden Gate Bridge. Ah. Donc, déjà, le nom, il vient de où?
Des États-Unis.
Oui, ouais. ça veut dire quoi le nom? Allez, Hicham, toi qui es bilingue.
Le pont doré. Parce que c'était entre la City et...
c'est le pont,
entre Portland
le
et
pont de la Porte Portland. Dorée, du coup.
Oui.
Le Golden Gate Bridge. Bah, en fait, non, c'est juste que le détroit, en fait, qui passe, s'appelle le Golden Gate.
Ah, et c'est un pont, donc.
Et donc, voilà, c'est le exactement...
C'est le pont qui passe par...
En fait, voilà, les gens ont tendance à oublier que c'est le nom du détroit, mais voilà, c'est bien le détroit qui s'appelle le Golden Gate. Et le Golden Gate s'appellerait comme ça, en hommage, entre guillemets, au détroit d'Istanbul, là, qui s'appelle la Corne d'Or, je crois.
Alors là...
Enfin,
Humide Gullut.
Voilà, là je pars.
Non.
Non, je n'ai pas.
Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est en hommage.
Ok, ouais.
Voilà, okay. Très détroit d'Istanbul. Donc, bref. Alors, la baie de San Francisco, elle est foutue de façon pas super pratique. C'est-à-dire que vous avez San Francisco, vous avez ce Golden Gate qui est juste au nord de San Francisco, et ensuite, vous avez une autre ville qui était déjà assez importante il y a un peu plus de 100 ans, qui s'appelle Sausalito. Et
ça
en fait, si. Sausalito.
Okay.
Et si vous n'avez pas de pont, en fait, au niveau du Golden Gate, la baie de San Francisco, elle est énorme. Vous devez vous taper, mais un tour incroyable. Et donc, dès 1872, on s'est dit, putain, ce serait tellement pratique. Ce serait tellement pratique qu'on fasse n'importe quoi.
Comme
une tyrolienne,
une
truc, mais voilà. Mais qu'on pousse un petit peu sur les falaises, mais qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc, voilà, San Francisco a de toute évidence besoin d'un pont. Mais le projet n'aboutit pas vraiment parce qu'on y réfléchit, mais c'est en même temps super complexe. Parce que c'est un.
Il y a combien de mètres qui séparent ou de kilomètres?
Environ 2 kilomètres.
Ah ouais, c'est, voilà, c'est
et là,
pas 3 planches de bois.
On est en 1872, donc ouais, exactement. C'est pas dire, allez, on prend 3 cordes de planches et puis on fait un pont à la Indiana Jones.
Allez, hop, c'est parti.
Voilà. Et en 1906, il y a un terrible séisme très très violent à San Francisco, enfin dans toute la baie, qui va détruire la quasi-totalité de la ville de San Francisco. En plus, ça provoque des incendies, donc ce qui ne s'est pas effondré flambe. Enfin, bref, très génial.
L'Amérique, quoi.
Voilà. Donc,
du coup, ils avaient plein de matières premières.
Maintenant, mais en fait, du coup, on s'est dit, bon, bah, comme il faut reconstruire absolument toute la ville, les gars, on va réfléchir aux axes routiers importants. Et on se dit, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on mette un pont là, parce qu'on pourrait faire un super axe routier nord-sud, et si on avait le pont, ce serait impec. Mais on n'a pas trop les sous. Donc on attend un peu, et en 1916, on ressort un petit peu le projet, donc vous voyez, c'est vraiment tous les 5, 6 ans, 7 ans.
C'est pas si vieux.
Voilà, on ressort le projet, mais voilà, il y a plein de contraintes. Déjà, ça va coûter cher de faire un pont.
Ah bah, 2 km, ouais.
Voilà, de 2 km. Pour cette époque-là, c'est quand même du quasiment jamais vu. En plus de ça, les courants, ils sont extrêmement forts au niveau du Golden Gate. Il y a un brouillard qui est archi-violent. Et
tu m'as dit, on est au 19e siècle, là.
On est en 1916.
Ok, donc maintenant ouais. On est ok.
Voilà.
Toujours le spécialiste ouais, des siècles.
Non, on est au début 20e.
Voilà. Exactement. Et en
si
plus...
on était 20 ans plus tôt, ça serait fin 19e. Ouais.
Bon. Mais bon.
Et donc, et en plus de ça, il y a un brouillard en fait très épais qui est très particulier, peut-être pour les auditeurs qui sont déjà allés à San Francisco, qui est assez étonnant. En plus, il se lève super vite. Mm-hmm. Et ce brouillard, alors ça, est-ce qu'on le savait en 1916? Est-ce qu'on l'a découvert sur le tard? Je sais pas, mais en tout cas, ce brouillard, il est très très chargé en sel. Et donc niveau corrosion, c'est pas cool. Ouf. Bah oui, c'est pas ouf du tout. Donc du coup, on se dit bon bah pour le pont, ouais, ce serait cool, mais on va attendre. Et au final, en 1919, on a un ingénieur qui s'appelle Michel.
Oh oui, non, bah voilà.
Qui s'appelle Michael.
Ah, ouais, bah, c'est comme et Michel.
Qui, alors, qui par contre a un nom compliqué à prononcer, c'est O'Shaughnessy. Okay. Donc voilà, c'est.
On va l'appeler Michel Michel.
Moi, je pense qu'on va l'appeler, ouais. Exactement, l'appeler Michel le Léprochon. Et Michel le Léprochon lui dit bah écoutez, moi
c'est bien,
je vais.
C'est pas raciste du tout. Non. Michel Guinness, allez, rôle, suivant. Oh, putain, bon, vache.
Donc, Michel, en 1919, il va être le premier à parler d'un Golden Gate Bridge. Donc, okay. Vraiment, d'un pont qui traverse le Golden Gate. Il a son putain de projet. Donc, lui, il est ingénieur, mais. Il se dit tout seul, ça me paraît quand même un petit peu chaud de faire un tel projet, de dessiner mes plans un petit peu tout seul. Donc, il va faire appel à un architecte qui est spécialiste dans la fabrication des ponts. Donc, il s'appelle Joseph Strauss. Et ce mec, il a fait des centaines de ponts. Genre vraiment, c'est le roi du pont. Voilà. Sauf que lui, il fait... Alors, Hicham, toi, tu pourras peut-être nous expliquer la différence. Non, lui, il fait...
Il s'applique à un...
Joseph Strauss.
Ah, parce qu'après, t'as dit Dupont, donc je t'ai plus...
Oh Dieu.
C'est bon,
elle est passée. Allez. On est tous tordus de rire. Et donc notre ami Strauss, donc lui, il a fait que 150 ponts vraiment, mais que des ponts à bascule. Il a jamais fait de pont à suspension.
Alors, est-ce que tu peux expliquer le principe du pont à bascule?
Eh ben, je comptais sur Hicham. C'est le moment où j'ai mis dans mes notes. Hicham, explique-nous la différence entre un pont à bascule et un pont à suspension.
J'ai aucune idée, mais si je dois deviner, en général, si ça commence comme ça, c'est que ça pue.
Un pont qui bascule.
Pont à bascule, c'est peut-être avec des étés, enfin des tirs forts.
Ben moi, je me serais dit les ponts comme ça, là, non?
Alors, je vous rappelle.
Bah, non, oui, on
je vous rappelle qu'on fait une émission audio. Ouais.
Oui,
non, surtout on fait une émission. Camille qui fait des gestes avec ses bras. Ah oui, il y en a 1919. Non.
Ça t'a pas réussi ce voyage aux États-Unis.
Non, parce que là-bas, les podcasts ils sont vidéo, c'est pour ça. On est en retard en France. Donc alors,
non, honnêtement, j'ai aucune idée.
Alors, ce que tu m'y mets, c'est les ponts qui s'ouvrent au milieu. Et
oui,
après, voilà,
oui, oui. Ouais, mais en fait,
en plus, tu comptais vraiment que sur moi. Moi, on me donne des plans, je fabrique les ponts. D'accord. Je m'arrête là.
Bon ben, du coup, là, il faut faire un pont suspendu. Et Joseph, il sait faire que des ponts à bascule.
Ça marche.
Mais Joseph, il y croit. Enfin, il aime vraiment le risque.
On a embauché quelqu'un qui fact-check en ce moment même.
Ouais, peut-être que potentiellement.
Ah oui, ouais. Exact.
C'est exactement ça, voilà.
C'est les ponts qui s'ouvrent au milieu.
Ouais.
Voilà, très bien. Donc,
et on peut laisser passer les péniches ou les bateaux.
D'accord,
les
ok. Bateaux.
Voilà.
Très bien.
Donc, bah, d'ailleurs, sur le papier, ça a l'air plus simple au final de faire un pont suspendu que de faire un truc qui s'ouvre, qui ferme, qui s'ouvre, qui ferme.
Ah.
Sur le papier, ça paraît plus simple.
Ça
quand même.
Dépend. Ça dépend.
Moi, je propose juste qu'on fasse œuvre d'empathie vis-à-vis de ces pauvres ingénieurs qui ont dû galérer leur race.
Oui, ah non, mais moi, dans tous les cas, je les admire de ouf parce que c'est quand même un trésor de l'ingénierie civile, le Golden Gate Bridge.
Oui.
Pour le coup. Donc, voilà. Donc du coup, notre Joseph, il commence à faire ses petits plans en 1921. Et en parallèle, il faut qu'on trouve le financement. Et là, il y a des oppositions, mais vraiment dans tous les sens. D'une part, parce que les propriétaires des ferries qui relient San Francisco à Sausalito, ils se disent, mais les gars, s'il y a un pont, nous, ça nous arrange juste un peu moyennement. Je vous rappelle que toute la ville, il a fallu la reconstruire à partir de 1906. Donc les habitants de San Francisco, ils disent, nous, on n'a pas trop envie de payer des impôts en rap.
Ça fait 10 ans qu'il raque.
Voilà, si on pouvait éviter tout ça pour avoir un pont, non, merci, on se contentera du ferry. Et en plus de ça, 1929, bim, Grande Dépression.
Ah oui.
Ouais, donc,
Ah ouais, donc c'était pas la période de ouf.
Non.
Attends, mais Dépression, c'est 29, c'est ça?
Ouais, c'est 29. Okay. Et il commence à faire ses plans en 21.
Okay. Dépression parce qu'il pleuvait?
Non, il y a un énorme krach boursier. Et c'était en octobre 1929. L'économie américaine s'effondre en quelques heures, quoi. En gros, c'est vide. Et Strauss, au final, il va finir quand même, malgré tout, par obtenir un budget et par faire valider le projet. Donc le mec, il a mis quasiment 10 ans. Enfin, il a même mis 10 ans. À obtenir ça. Donc les travaux commencent en 1933.
Ça fait déjà un bon moment qu'il tape dessus.
Bah lui, ça fait plus de 15 ans qu'il pense. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'il réfléchit au projet. Hein. Donc en 1933, il y a les travaux qui débutent. Et on commence les travaux comment ? Bah, par des interventions sous-marines. Et c'est la partie, moi, qui m'a le plus épatée. C'est que déjà, je me dis, les plongeurs de l'époque, on est en 1933, tu sais, j'imagine les scaphandriers à la Jules Verne, un petit peu avec la grille, là, devant le hublot au niveau du visage.
La grille, t'as l'eau qui passe.
Oui. Ça va, Maurice? Voilà.
Ça fait deux jours qu'il est au fond, il ne moufte pas, c'est ouf. Impressionnant.
Et donc, ces ingénieurs, en fait, ces plongeurs qu'on va envoyer sous l'eau, eux, ils ont une mission, c'est de descendre à 30 mètres de profondeur pour faire péter la roche à la dynamite, pour pouvoir installer les deux piliers de base qui vont servir de base aux deux grosses tours du Golden Gate Bridge. Et donc voilà, ils descendent à 30 mètres de profondeur, sauf qu'en fait, il y a des courants, comme je vous l'ai dit, extrêmement forts, qui sont tout le temps et constants, en moyenne à 95 km/h. Donc je ne sais pas comment ils ont géré le truc, étant donné que c'est un lieu où l'eau d'eau douce rencontre l'eau salée, donc ça pousse dans tous les sens, t'as des risques de te taper la falaise.
Oh, c'est
après, très sympa.
Je pense, c'était pas vraiment un mec qui descendait en mode. Et il descendait, il mettait la dynamite, il allumait.
Non, mais
c'est pas comme ça.
Non, c'est pas comme ça que je t'imagine.
Il y a vraiment une énorme structure. Moi,
bien
je
sûr.
Pense,
ah oui, oui.
Comme une sorte d'ascenseur sous-marin.
C'est un peu ça, en tout cas.
Et mais c'est, oui, bien sûr, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais la force des courants pour l'époque, ils ont quand même réussi à faire un travail qui a été
c'est
étendu
sûr,
sur
sûr.
Des mois pour faire des fondations assez incroyables.
Après, j'avais dire tout ce calcul.
En terrain hostile.
Oui.
Eh ben, tu diras ça à mon Jojo, hein, voilà. Le pauvre petit Joseph. Voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, il a fait plein de calculs et puis ça fonctionne parce que on arrive au bout de quelques mois à pouvoir entreprendre les travaux de surface.
Pas mal, putain, pas mal déjà. Hein.
Ouais. Bah, voilà. Par contre, donc ils posent les petites fondations.
Le ratio est quand même chelou parce que 10 ans de dessin et 3 mois après pour poser les pylônes, c'est quand même rapide. Ça.
Oui, mais ils s'en sont bien tirés.
Ah, ouais. Ouais.
C'est des pylônes. Tout est en acier ?
Béton.
Hicham qui fait le spécialiste.
Béton acier.
Non, mais franchement, c'est différent entre le.
Le Golden Gate, c'est béton acier.
D'accord, donc les fondations sont
béton.
En béton.
Okay. Ouais, c'est béton. Je crois que c'est pour les fondations, c'est 179 000 tonnes de béton qui ont été utilisées de mémoire.
100 combien ?
179 000.
Ah ouais, j'aurais
dit 180.
Ouais. Non, bah oui, voilà. Oui, ça fait beaucoup.
Et ils ont voulu le faire en acier parce qu'ils voulaient un truc léger.
Mmh. Ok, en acier inoxydable.
Bah non, apparemment oui, l'acier c'est léger. Alors moi, est-ce que j'ai une tête à m'y connaître ? Non, clairement pas.
Bah,
mais après, quel est l'intérêt de faire un truc léger ? Enfin, ils se sont pas dit, bah tiens, comme ça on pourra l'amener à Los Angeles. Alors pareil.
Mais comme ça, le jour où on déménage, paf.
Ouais, voilà. Si avec la faille de San Andreas, San Francisco se déplace, on pourra amener le Golden Gate avec nous.
Bah voilà, vous réfléchissez pas aussi.
Donc voilà. Donc c'est acier et béton essentiellement. Donc on commence les travaux en surface qui sont eux aussi très difficiles, toujours à cause des courants. Okay. Et aussi du fameux brouillard dont je vous ai parlé. Et donc, comme il y a des courants et qu'il y a le brouillard, on s'est dit, en fait, pour faire les allers-retours jusqu'aux bases des piliers en barque, etc., tous les jours, ça va être super casse-gueule, on va beaucoup mourir. Donc, ils se sont dit, on va construire
un
ponton,
ouais, okay.
Une jetée.
Ouais. Ah oui, une jetée d'un kilomètre, quoi.
De 300 mètres.
Ok, ouais.
Voilà, en bois. Et sur lequel on faisait passer les carrioles, les machins et tout.
Putain,
donc
tu ne fais pas faire le fier. Hein.
Une tempête, pff, ouais. la jetée s'effondre, il faut reconstruire une, ça prend un mois.
C'était pas à l'époque, donc c'était les gens qui vérifiaient justement que tout était respecté.
Et j'imagine limite les gens, enfin les ouvriers, ça devait être du consommable quoi. Allez hop, c'est parti.
Ouais, s'ils meurent, bah tant pis.
On en parlera de ça, des conditions des ouvriers. Ouais, on va en parler.
Chouette.
Et donc du coup, en fait, les tempêtes détruisent très très régulièrement les installations, la jetée qui est construite. Donc en fait, on perd un temps de dingue. Mais Joseph Strauss, il dit non, on lâche pas l'affaire. Ils vont reconstruire le truc, je sais pas combien de fois. Et au final, ça fonctionne, étant donné que au bout d'un an, du coup, de travaux, on a construit vraiment les deux bases des tours et on va pouvoir commencer à élever les tours en acier qui font 227 mètres de haut chacune.
Ultra impressionnant, enfin.
Bah franchement, oui, moi chapeau pour l'époque, hein, vraiment.
Yes.
Donc les tours là, les ouvriers vont commencer à bosser en hauteur. Alors il faut savoir que les ouvriers entrepris pour la construction du Golden Gate, donc je ne sais pas combien ils étaient parce que déjà le chantier va durer quelques années, donc c'est difficile de savoir combien ils étaient en même temps par jour.
Ouais.
Mais ils étaient plutôt bien payés. Ils étaient payés $11 la journée de l'époque.
Putain, pour l'époque.
Donc $11, ça nous paraît.
Attends, la journée ?
Peu. Ouais.
Ah oui, oui, non.
C'est pas déjà plus que le SMIC aujourd'hui ?
Non, c'est de l'heure. C'est pour ça que je me suis dit. Ah.
En fait, ça représente $180 la journée aujourd'hui. Donc en fait, on a super bien payé les ouvriers du Golden Gate Bridge.
Ah, attends, redis-moi ça.
$11 de l'époque. Par jour.
Par jour. Ah, c'était
ouais.
Par jour.
Ouais. Par jour.
Oui, c'est ça.
Et ça représente $180 la journée aujourd'hui. Donc,
ouais,
ils étaient très bien payés. Mmh. Ouais.
Non, mais j'ai cru justement, comme Ilias, que c'était 11 dollars par heure.
Non,
et
non,
c'est...
non.
Ouais, beaucoup plus que...
Oui, voilà, ouais, mais les dollars sont pas les mêmes. Là, 180 dollars par jour, oui, oui. Voilà.
Et puis j'imagine qu'ils voulaient pas que ce soit fait, enfin qu'il y ait des problèmes, etc.
Oui, bah,
c'est pas le moment de lésiner, quoi.
Bah clairement, et justement, notre Joseph Strauss, il va vraiment tout faire pour que les ouvriers bossent dans de bonnes conditions. Donc déjà, ça va être le premier chantier où on va imposer un port du casque rigide. Et en fait, il y avait deux ou trois mecs qui tournaient, qui étaient payés pour vérifier que toutes les conditions de sécurité qui étaient imposées aux ouvriers étaient respectées. Sinon, c'était un licenciement immédiat et sans appel.
C'est ouf, mais petite question bête, comment ça se fait qu'ils aient tenu à ce point-là? Parce que d'habitude, c'est pas une habitude dans la construction.
Parce que le financement du Golden Gate Bridge a coûté extrêmement cher et qu'il fallait du coup que ce soit vraiment un chantier idéal.
Ok.
Tu vois, sans accident, sans... L'Amérique entière avait vraiment les yeux tournés sur le Golden Gate Bridge.
Okay.
Et donc, il fallait vraiment en faire la construction exemplaire.
Okay.
C'était l'idée. Donc, il y a eu le port du casque. Il y a eu l'idée, hein, ça a été quand même très peu respecté. Et puis, en fait, ça allait pas parce qu'on maîtrisait pas trop le truc, mais d'attacher les ouvriers avec des harnais. Mm-hmm. Sauf qu'il y en avait qui tombaient quand même et qui se heurtaient super violemment contre la structure. Donc, ils se pétaient quand même quelque chose. Donc, on s'est dit, ça, on va arrêter. voilà.
Bon, bah là, ça fait le quatrième.
Il y a eu des demandes, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers qui s'amusaient à faire des petites pirouettes arrière avant et tout, ça a épaté leurs potes. On leur a dit, si tu fais ça, en fait, frère, t'es viré. Voilà, vous ne prenez aucun risque. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer sur toute la longueur du chantier, en fait, un énorme filet.
Ah ouais?
Comme il y a dans les cirques, en fait, aujourd'hui.
Génial.
Voilà, un énorme filet qui a quand même sauvé la vie à un peu plus d'une vingtaine d'ouvriers. Au total, sur toute la durée du chantier qui sont tombés, il y a eu entre guillemets que 12 morts sur le chantier, sur toute la durée du chantier.
Ouais. Alors, c'est que dalle.
Ouais, donc je vous rappelle que les travaux commencent en 33 et le pont est fini en 4 ans, étant donné qu'il est inauguré en 37. Donc en 4 ans, il y a eu 12 morts. Ah. Un qui est tombé avant l'installation du filet.
Ah, petite parenthèse, quand je dis c'est que dalle, c'est beaucoup.
Oui, ah non, et justement, j'allais faire un truc.
Non, mais pour l'époque, pour l'ampleur du chantier.
Quand on regarde
les
nouveaux stades qui ont été construits.
C'est pas le bon exemple au Qatar, tout ça. Ouais. Oui, ça s'appelle de l'esclavage.
Oui, justement, mais typiquement, ça veut dire qu'on aurait pu voir des événements sportifs se produire dans des bâtiments qui ont généré plusieurs dizaines de morts par jour. Quoi.
C'est vrai.
Donc aujourd'hui, on voit des choses bien pires que ces 12 morts sur 4.
C'est vrai. Et là, du coup, il y en a un qui est mort au début du chantier, il n'y avait pas encore le filet, il tombait à l'eau. Et les 11 autres, ils sont morts d'un seul coup, en fait, mais vraiment à genre 6 mois de l'inauguration. Mmh. Ils sont tombés tous en même temps sur le filet, mais avec des grosses pièces d'œuvre. Et le filet a cédé. C'est là qu'on s'est rendu compte que le filet avait des limites. Quoi.
Ouais, le filet a craqué.
Et aussi, il faut savoir que... Il y a un problème d'alcoolémie au niveau des ouvriers, donc...
Attends, pardon, tu disais le premier et les trois autres? Ou le premier et tous les autres? Il y en a 12 en tout, c'est ça?
Il y en a un qui est mort tout seul au début du chantier.
Ok, et après tous les autres.
Et ensuite, les 11 autres, ça a été d'un seul coup, ouais. Et donc, oui, il y a des soucis au niveau de l'alcool. En fait, il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent bosser bourrés. Ce qui pose un problème pareil de sécurité, parce que quand t'es bourré, tu perds l'équilibre. Sur le Golden Gate Bridge, c'est un petit peu embêtant. Et donc, du coup, Joseph Strauss, il va leur faire distribuer régulièrement des boissons anti-gueule de bois. À base
caféine,
de légumes, de machin et tout, super fermenté. Enfin, voilà.
Ok.
Donc assez rigolo quoi. Il prend bien soin de ses ouvriers, tu vois quand même.
Très bien. Il est fort.
Et au final, le 27 mai 1937, c'est enfin l'inauguration pour les piétons et le 28 mai pour les voitures. C'est le plus grand pont suspendu du monde à l'époque.
Ouf. Ouais.
Et il ne va être dépassé qu'en 1964. Donc il garde son titre pendant presque 30 ans quand même. Ce que je trouve assez énorme.
Tu sais qui l'a dépassé?
C'est le pont. Il a un nom italien à New York. Venerazzo, un truc comme ça. Enfin, c'est un pont à New York. D'accord. En tout cas, c'est toujours aux États-Unis.
Okay.
Le Golden Gate, on va également l'équiper, en fait, quand on va le bâtir, de cornes de brume.
Okay.
Qu'on peut encore entendre aujourd'hui quand on va à San Francisco, mm-hmm. étant donné que. Donc, en fait, si vous voulez, c'est toujours cette question de brouillard. Les bateaux ne voyaient pas forcément le Golden Gate Bridge parce que c'est vraiment, mais quand je vous dis c'est le brouillard, mais total, le pont disparaît pendant plusieurs heures.
C'est
super beau à voir, mais c'est vrai que du coup pour les bateaux, il y a un énorme port en fait dans la baie. C'est encore le cas aujourd'hui, vous voyez des énormes conteneurs en fait qui arrivent de Chine et qui vont au port d'Auckland, donc qui est dans la baie de San Francisco, et les portes-conteneurs passent sous le Golden Gate Bridge, et donc c'est assez hallucinant à voir parce que il paraît super minuscule à côté du pont, alors qu'un porte-conteneur, c'est quand même un beau bébé, quoi, c'est pas une petite péniche sur la Seine. Et Et donc, en fait, il y a les cornes de brume qui aujourd'hui se déclenchent automatiquement quand il y a du brouillard pour guider les navires malgré les aides GPS, etc. Parce qu'il y a encore régulièrement des accidents. À l'époque, il n'y avait pas les aides GPS, donc c'était vraiment indispensable. Et donc, c'est d'une part pour protéger les bateaux, mais aussi pour protéger le pont, parce qu'un porte-container qui viendrait dans un des piliers, ça ne mettrait pas en cause le pont, mais ça entraînerait quand même des petits travaux de révision à faire, parce qu'un porte-container, c'est quand même un beau bébé. Quoi.
Ouais, ça, il passe en dessous, mais c'est, le problème, c'est effectivement juste les piliers, j'imagine.
Oui, clairement.
C'est
sûr de passer entre les deux piliers, même s'il y a de la place, et de ne pas passer entre pilier falaise ou pilier falaise.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'ils ont...
Il n'y a pas beaucoup d'espace entre...
Entre quoi, pilier falaise. Ouais, non, il y a pas beaucoup d'espace, mais il y a déjà des bateaux. Il y a toute une balade à pied dans un parc naturel qu'on peut faire au sud du pont. Et en fait, là, ils expliquent tous les naufrages qu'il y a eu, et on peut voir plein de carcasses de bateaux. Et on se dit, ah la vache, ouais, il y en a eu des bateaux qui se sont plantés en essayant de passer, quoi. Et en fait, je vous ai pas dit, mais c'était pas super profond sous le Golden Gate Bridge. Mmh. Donc ils ont aussi augmenté là. Ils ont creusé un genre de canal sous-marin. En fait, ils ont un petit peu augmenter la profondeur voilà, pour les bateaux.
Okay.
Donc voilà, donc il y a des cornes de brume, et en fait aujourd'hui elles sonnent en moyenne, donc c'est très variable entre l'été et l'hiver, selon les périodes de brouillard, mais quand on remet sur l'année, les cornes de brume du Golden Gate Bridge, vous pouvez les entendre 5 heures par jour, quand vous mettez tout bout à bout à San Francisco. Ouais, c'est vrai qu'on les entend super souvent. C'est vraiment des ponts, t'as l'impression que c'est le bateau qui est en dessous qui fait le bruit, en fait non, c'est le pont.
C'est super à la fois ingénieux et c'est drôle que ça existe encore.
C'est vrai. Alors, il est de quelle couleur ce pont ?
Bah, rouge, j'ai envie de dire.
Rouge, parce que t'as dit le fameux pont rouge.
Il a une couleur très particulière. Moi, c'est vrai que j'aurais toujours dit rouge.
Bordeaux.
Il est orange international. C'est la couleur officielle du pont de San Francisco.
Ouais, il est
orange international.
Orange international, qui est une couleur qui existe vraiment, qui est très utilisée dans l'aérospatiale.
D'accord.
C'est, vous savez, les combinaisons de la NASA sont orange international, etc. Voilà. Et donc du coup
la marque orange,
c'est un comment,
la marque orange,
c'est pas tout à fait le même.
Non, voilà, c'est plus...
mais orange, orange spatial, je crois qu'on le retrouve aussi dans l'aéronautique pour tout ce qui est des pièces de sécurité, il me semble, j'avais vu
peut-être,
enfin, mais c'est un truc qui est lié au plus ou moins aux avions, aux fusées, à ce genre de choses, et visiblement au Golden Gate Bridge. Exactement. Okay. L'idée, c'est vraiment qu'on le voit dans le brouillard. Je vous garantis que malgré ça, ça suffit pas.
Après, imagine, il serait fluorescent, un putain de pont de 2 km fluorescent dans la...
C'est vrai. Et donc c'est un des ingénieurs du chantier, Irvin Moreau, qui avait choisi la couleur, enfin qui avait vraiment insisté pour que ce soit cette couleur-là. Donc il faut savoir que ça représente quand même 30 000 litres de peinture par an de travaux d'entretien, parce que le brouillard est salé, je vous le rappelle.
30 000
non, 30 000 litres.
Putain.
Ben, aujourd'hui, c'est la première dépense au niveau du pont. C'est le fait de le repeindre tous les ans, d'entretenir la couleur. Il y a toujours une partie qui est en train d'être repeinte.
Génial.
Et en fait, les deux autres choix de couleurs qu'il y avait, c'était soit rayé rouge et blanc ou rayé jaune et noir. On est quand même, enfin, on l'a grave échappé belle. Et le mec, il a dit non.
Rouge et blanc encore, ça va.
Bah, ouais, rouge et blanc, ça fait quand même. Non, vraiment.
Non,
c'est
vrai,
rouge Charlie, quoi. T'en dirais un Charlie énorme.
Ça va. Mais non, jaune et non.
Bah après, et noir, c'est... après, le noir pour être vu dans le brouillard, pas ouf.
Oui, non, un beau gris.
Ah, quoique, le brouillard, ça fait un peu laiteux, blanc.
Oui, c'est vrai que le gris sur noir, ça se voit bien.
Bah, là, ils ont choisi ça parce que d'une part, ça se voit bien, et d'autre part, ils trouvaient qu'avec les collines vertes, le... Non, mais c'est vrai que esthétiquement, c'était très beau, et c'est vrai que esthétiquement, c'est étonnant, ce choix de rouge un peu orangé, mais c'est super beau,
c'est
vraiment beau.
Ça se tient.
Alors, quel risque il y a aujourd'hui au niveau du pont ? Parce qu'il y a des risques. Alors, les risques, ils sont essentiellement sismiques. On est en Californie, voilà. Donc, effectivement, San Francisco, c'est une ville qui est très, très proche des failles de San Andreas et de Eva, Eckvard. Et en 1989, il y a eu un énorme déjà tremblement de terre. Donc, il y a eu celui de 1906 avant la construction du pont.
Ouais.
Et il y en a eu un énorme qui était de 6,9 sur l'échelle de Richter, qui a touché toute la baie de San Francisco.
C'est déjà pas mal, ouais.
Ce qui est déjà clairement pas mal. Par miracle, le Golden Gate Bridge n'a absolument rien eu. Il n'y a eu aucun dégât matériel. Mais par contre, le Bay Bridge, qui traverse une autre partie de la baie, ils sont vraiment juste à côté. Donc lui, il est moins connu parce qu'il est tout gris, il est moins fun. Voilà. Mais il est à peu près de la même époque. Il y en a des bouts qui sont tombés du Bay Bridge à cause du tremblement de terre. Ouais. Et donc, du coup, on a un petit peu flippé. Et comme on sait que dans les 25-30 années à venir maximum, il y aura à nouveau un énorme tremblement de terre à San Francisco, ils sont sûrs et certains. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire tenir le Golden Gate Bridge. Donc là, il est en train, il y a d'énormes travaux dessus, parce qu'ils sont en train de tout faire. Pour que l'idée, c'est qu'ils ont calculé que la faille de San Andreas, la prochaine fois que ça bougerait, ça ferait 8,3.
Oh, vache.
Oui.
Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est que le pont survive à 8,3. Et apparemment, ce serait le seul pont au monde qui serait capable de survivre à un séisme de 8,3.
Je plains les ingénieurs qui doivent faire les calculs.
C'est-à-dire que là, le chantier qui est en cours actuellement, ça leur coûterait beaucoup moins cher de raser le pont et d'en refaire un directement, mais ils ne peuvent pas parce qu'il est classé 7e merveille du monde. Mais oui, c'est les merveilles du monde moderne.
Je savais pas qu'il
le Golden Gate Bridge est dedans. Et il a été classé il y a quelques décennies merveille de l'ingénierie civile, enfin merveille du monde de l'ingénierie civile en plus. Enfin voilà, quoi, il a la totale. Et donc, du coup, c'est un beau bazar. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de rajouter apparemment énormément de souplesse au pont. Enfin, voilà.
Quoi, du coup, il fait des étirements un peu de yoga le matin.
C'est ça, tous les matins.
Après, je me pose des questions très bêtes. C'est que, honnêtement, j'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'ils y arrivent. Parce que, bon, on peut faire des trucs de ouf, on envoie des gens dans l'espace, donc pourquoi pas. Même si c'est déjà très très dur. Par contre, si le pont tient à 8,3, mais que le reste de la ville s'est pété la gueule.
Bah justement, tu peux ramener des ravitaillements.
Alors après, c'est vrai que c'est un axe routier qui est vraiment non négligeable, le Golden Gate. Okay. C'est clairement pas un pont de tourisme. Il y a très souvent des embouteillages dessus. Il y a énormément d'Américains qui le prennent tous les matins, tous les soirs.
Je me dis, si à 8,3, si c'est le seul pont du monde qui tient, bah, les autres bâtiments autour, ils vont peut-être se péter la gueule. Donc ça va être un pont au milieu de
chandouilles. J'ose espérer très fortement que la ville de San Francisco, elle fait de toute façon le nécessaire. Oui, moi j'y crois moyen.
Tout est construit en bois quasiment là-bas.
Mais de moins en moins. Mais oui, c'est sûr que les trucs super connus qu'il y a, genre les petites maisons victoriennes, tu sais, typiques que tu vois en photo et tout, elles tiendront pas. Déjà, si elles sont super connues, vous savez, les 5-6 petites maisons colorées là, qu'on voit souvent en photo dans les photos de San Francisco, elles sont connues parce que c'est les seules survivantes du séisme de 1906, en gros, hein, c'est l'idée. Ouais. Okay. Et donc, du coup, oui, non, la ville, elle va probablement se péter la gueule. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est maintenir ce pont. Donc voilà. Mais 8,3, oui, je ne m'en rends pas compte, mais c'est énormissime, c'est je crois. Énorme. On est d'accord. Énorme. Mais limite, en fait, ça va s'élargir. Il peut se passer des trucs de ouf. Ouais, il va y avoir des trous dans le sol à 8,3. Enfin, ouais. C'est... Ouais. Enfin bref. Non, mais qui se lance. Hein, c'est... Voilà.
Allez-y, tentez.
Hein. Voilà. Et autre risque très important lié au pont, les suicides. Et oui.
Ah, oui,
c'est un vrai problème qu'il y a, c'est que ce pont attire les suicidaires.
Ah, oui,
c'est le deuxième édifice du monde.
C'est pas le pont qui va se suicider.
Ouais, c'est...
c'est le deuxième édifice du monde depuis lequel on se suicide le plus.
Ouais,
depuis qu'il a été construit, il y a eu 2000 morts. Il n'y a rien.
Il n'y a pas du tout.
Il n'y a rien.
Enfin, si, mais alors, c'est pas énorme, quoi.
Bah, non, mais t'as les petites barrières hautes d'un mètre, en fait. Mètre, mais t'enjambes, tu sautes. Franchement, c'est un appel. Hein. En plus, c'est beau, le paysage est magnifique. Enfin, non, mais vraiment, c'est...
On parlera après l'épisode Camille, tu me fais peur. Vraiment, quand c'est beau, moi, j'aime bien me suicider.
Non, mais c'est...
La hauteur depuis le...
Alors, ouais, mais justement, 67 mètres. Ça fait 4 secondes de chute. Ouais, et tu rentres en contact avec la mer à 130 km/h. Il y a quand même des survivants tous les ans qui récupèrent. Ouais, il y a des survivants tous les ans. Et les survivants, ils ont tous raconté que 4 secondes, c'était horrible parce qu'ils ont tous changé d'avis en cours de route. Je trouve ça ignoble. Mais 4 secondes, ça doit être effroyable.
Il suffit de regarder, imagine. Ah.
Attends, tu peux le refaire. Vas-y.
Ah.
Oh merde, non. Je pense au bout de 2 secondes, c'est fac.
Donc ouais, il y a eu...
Même le temps de bailler, tu sais.
Il y a eu environ 2000 suicides depuis qu'il a été construit, donc il a été inauguré il y a moins de 100 ans. Il y a eu un pic en 2013 avec 43 suicides la même année.
Mais ça aussi, ça doit être dur quand t'es genre la personne à l'origine du projet et que tu dis putain, ton pont il a servi à 2000 suicides. Bon, le mec est plus vivant, j'imagine.
C'est énorme, et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'habitants à San Francisco donc qui ont perdu des gens comme ça qui disent mais par contre c'est quand même assez incroyable qu'on fasse pas quelque chose, qu'on mette pas.
Oui, tu gardes plein et puis pour paniquer la vue, tu mets des vitres.
La première fois que je suis allée à San Francisco c'était en 2019 et ils parlaient déjà de mettre un filet, quelque chose et tout. Et là, je ne suis pas passée à pied sur le pont. En 2009, il n'y avait vraiment absolument rien. C'est-à-dire, t'enjambais, tu sautais, et c'était la folie furieuse. Là, je suis passée que en voiture, là, quand j'y suis retournée. Donc, je ne suis pas passée à pied. Mais je suis vraiment allée à côté du pont et je n'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose. Mais paraîtrait-il que depuis l'année dernière, ils ont installé des filets qui ont coûté plusieurs millions de dollars.
Ah bah ouais,
et voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ils avaient dit que pour 2019, ils installaient des filets. Et même en cherchant sur Internet, j'ai vu les articles d'avant disant « on va installer des filets », mais je n'ai jamais vu d'article disant « ils ont installé des filets sur le Golden Gate Bridge ». Voilà, mais c'est complètement dingue, c'est histoire de suicide. Alors, pour finir un petit peu avec quelques chiffres, donc le pont au total, Il fait 2,7 km de long, dont 1,9 en suspendu.
Ok.
Voilà. Parce qu'il passe un petit peu sur la Terre, en gros.
Camille qui fait des jets, enfin, sur Mission Cléopâtre.
C'est ça.
Là, hop, hop, hop.
C'est 75 000 tonnes d'acier. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est à vous de juger. Ça fait beaucoup d'acier, quoi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, des tours de 227 mètres. Mmh. Et il est large de 30 mètres. Il compte quand même 6 voies.
6 voies, c'est ouf.
Ouais, 4 pour entrer dans San Francisco et 2 pour en sortir. Non, l'inverse.
Fait combien de...
non, je sais plus.
Fait combien de long, t'as dit?
Il fait 2737 mètres de long.
Dont 180...
Okay. Dont 1900 suspendus.
Ouais, okay. Oui, ça fait 900 kilos d'acier par mètre. Donc,
ça fait beaucoup
mal. Bah, ouais. 900 kilos, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais.
Et donc voilà, donc il y a 6 voies ouvertes au trafic automobile. Et vous savez, il y a des rivets. Vous savez, le pont, quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il n'est pas lisse. Il y a ces petits ovales rouges. Oui, un petit peu partout qui le qualifient.
Boulons, quoi.
Ouais, des genres de boulons, mais c'est des ouais. C'est des rivets, c'est tout. Ouais. C'est tout lisse. Bah, il y en a 600 000.
Oh là là.
Voilà,
putain.
Ouais. Et on
c'est
peut
ce en... qu'on appelle une structure hyperstatique.
Ouais, on vous rappelle qu'en fait, c'est plus ou moins le métier de Hicham, donc c'est pour ça qu'il est carrément chaud sur le sujet. Ah ouais, 900 tonnes, c'est hyperstatique de ouf. Avec 4 rivets de moins, c'était pas hyperstatique, mais là, c'est hyperstatique.
Et vous savez, il y a des câbles aussi, il y a tout un tas de câbles en fait qui
ah
sont.
Ah oui,
là,
c'est super beau,
mais au
oui,
bout.
Qui est magnifique. Et bien, il y a quand même 129 000 km de câbles. Si on enlevait tous les câbles du Golden Gate Bridge, qu'on les mettait bout à bout, on pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Donc, c'est quand même
putain
pas
de Dieu.
Ouais. Ils ont tout donné oui, dans le câble. Oui.
Tout ça pour pas faire le tour de cette putain de baie, bordel.
Ah, d'ailleurs, au passage, je vous l'ai pas dit, mais les entreprises de ferry ont fait faillite.
Oh, putain.
Et aujourd'hui, il y a 40 millions de véhicules par an qui passent sur le Golden Gate Bridge.
J'y pense, t'imagines le mec qui bossait dans une boîte de ferry, elle a fait faillite, après il se retrouve à être chauffeur de taxi, à devoir passer sur le pont tous les jours. Genre, oh.
Dans les bouchons.
Les
donc, ouais, il y a 40 millions de kilomètres par an. N'importe qui peut le prendre,
de voiture, pardon, par an.
Mmh. N'importe qui peut le prendre en fait avec sa voiture. Mmh. Néanmoins, cher auditeur, si tu pars à San Francisco dans 2 semaines ou quoi, je te le dis parce que c'est un peu indiqué nulle part, le pont est payant.
Ok.
Sérieux?
Et donc, ouais, et alors en fait, il est payant comme tous les ponts qui mènent à San Francisco. Pour l'entretien, en fait, ils sont payants. Ils sont pas payants quand tu sors de San Francisco. Ouais, c'est ça. Donc, si vous sortez de San Francisco depuis un des ponts, ce ne sera pas payant. Si vous rentrez dans San Francisco, si vous faites le sens inverse pour aller côté ville, là, c'est payant.
C'est combien, tu sais ou pas?
C'était 3,50$, je crois.
Ça
va. Un
extrêmement
truc comme
précis.
Ça. Je suis plus sûre. Ouais. Parce que j'en ai payé plusieurs. Il y en avait un qui était à 7$. C'était peut-être
parce
celui-là.
Que même quand t'es passager, c'est toi qui payes.
C'est,
non,
oh putain, c'est
par
c'est
voiture,
cher.
C'est 7,50$.
C'est 7,25$.
Voilà, oh ok, bah c'est plus cher. Ouais. Les autres sont un peu moins chers, le Bay Bridge, et, ils sont moins chers. Et en fait, du coup, pour la petite astuce, si vous y passez, nulle part c'est marqué que c'est payant. Mmh. Donc forcément, t'es touriste, tu visites San Francisco, t'es pas forcément au courant qu'avec ta bagnole, tu vas payer. Il n'y a pas de péage, il n'y a rien. Alors tu te dis, mais comment tu payes? Parce qu'en fait, il y a des petites caméras qui photographient ta plaque. Et,
comme opportunité.
Voilà, et quand tu rends ta bagnole à la voiture, au truc de location, là, il te facture. Et en plus de ça, si t'as pas payé dans les 48 heures, t'as des majorations de dingue. Donc ce qu'il faut faire quand vous passez sur le Golden Gate Bridge, c'est d'aller sur le site goldengatebridge.org et de payer en ligne 48 heures après votre passage.
Oh, c'est ouf.
En marquant la tranche horaire approximative où vous êtes passé et le numéro de plaque d'immatriculation de votre voiture. Voilà.
C'est ouf. Ok. Eh ben merci beaucoup pour ce sujet, c'était ouf.
Mais je vous en prie, j'espère que ça vous a intéressé un petit peu.
Mais grave, mais c'est vrai que c'est magnifique, je m'étais jamais posé la question, mais c'est ultra beau et je suis toujours vachement impressionné par ces énormes entreprises humaines.
Mais puis moi, je sais pas, je le voyais dater des années 50, je le voyais peut-être pas forcément dater des années 30 et je voyais encore moins un projet qui remonte à la Première Guerre mondiale. Ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu ça, je le voyais bien collé aux années 50 en fait.
Il y a tout le monde qui se pète la gueule en Europe, t'as un mec qui fait... Enfin, un peu chier de faire le tour là, non? Je pourrais gagner du temps, je pense, non? Bon. Non, c'est vrai, ouais, c'est impressionnant et c'est.
Il est magnifique à pied, à vélo. Enfin, franchement, c'est la vue est ouf.
Enfin, je pense que c'est des photos. Hein, je regarde là sur Internet des photos de pendant la construction.
Ouais.
C'est juste incroyable.
Mais j'en ai plein que je vous mettrai en ligne que j'ai trouvé sur le site officiel du Golden Gate Bridge et il y a vraiment les travaux mois par mois.
Mmh. Ah, ça
où tu vois l'avancée quand ils mettent la page.
Ah,
c'est
bien.
Hallucinant. Mmh. Je les ai re-regardées tout à l'heure. Elles sont ouf. Trop voilà, cool. Donc je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Enfin, voilà, on verra comment
on fait. On dit souvent, on vous partagera ça. Si on oublie, n'hésitez pas à nous le rappeler en fait.
C'est tu me rappelles, j'ai trouvé la vidéo du pangolin qui s'essore la langue, mais j'arrive pas à la poster, putain de merde.
Ah, écoute, on voit
la
nous.
Donc l'auditeur qui m'a réclamé ça, je l'ai.
Ah putain, j'ai oublié cette histoire. Ah, ça me fait mal rien que d'y penser. Genre... Bon, pourquoi pas.
Roméo
allez, je vous propose d'y aller.
Il a avalé 3 boîtes de médicaments et 2 litres de lotion capillaire, on a appelé le SAMU.
Vous devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments.
Ils boivent de l'eau. De l'eau chaude et du lait.
Non mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui.
Mais moi j'en veux du dessert.
Cloug.
Ouais, alors excusez-moi, mais j'ai adoré cette petite musique de fond.
Ça fait littéralement une demi-heure qu'il la chante dans la cuisine.
Voilà. En plus, elle est libre de droit et elle est trop bien. Mais je vous partagerai peut-être la personne qui l'a faite si je retrouve, parce qu'en fait, je la trouve vraiment trop trop bien. Donc, je la partagerai. Et on pourra même la repasser à la fin du sujet. J'ai trop hâte.
Ouais. Yeah. Pourquoi pas le nouveau jingle, pardon maman, avec cette musique.
En vrai, j'avais trop envie. me chauffe pas, je pourrais le faire. Donc. L'homéopathie. Donc, t'en parlais tout à l'heure. À quoi tu penses quand on te parle d'homéopathie ?
Les petites boules sucrées que j'étais contente d'avoir quand j'étais petite parce que c'était trop bon.
Ouais, Hicham.
Comme elle. Pareil. J'étais pas content.
Ah ouais ?
Pourquoi ? On prenait pas.
Ok, très bien, pourquoi pas. Donc, effectivement, c'est ça qu'on a en tête. Et pareil, quand j'étais plus petit, bah, ça m'arrivait de prendre l'homéopathie, mais parce que
c'est des médicaments qui sont pas vraiment des médicaments.
C'est.
Si, moi, ça m'évoque aussi ce fait divers qu'il y avait eu il y a quelques années d'un couple en Italie qui a été condamné parce que leur fils de, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans tout petit, a eu une otite qui s'est surinfectée. Ils ne l'ont pas emmené à l'hôpital parce qu'ils voulaient le soigner que par homéopathie. Mmh. L'enfant a fini par avoir un abcès et est mort de sa fièvre. Et ils ont été, ça a fait pas mal de bruit en Italie l'année dernière ou l'année d'avant, je ne saurais plus trop vous dire, mais là, assez récemment, ils ont été condamnés pour négligence, maltraitance.
Ah, tu m'étonnes, oui.
Parce que, alors qu'eux n'ont pas arrêté de dire à leur procès, mais pas du tout, on l'a soigné, on lui donnait de l'homéopathie.
Alors, c'est un grand débat, et particulièrement en France. Donc, c'est vrai que c'est potentiellement un peu différent dans les autres pays. Pourquoi je voulais parler de ça? C'est que, bon, personnellement, je crois pas spécialement à l'homéopathie parce que je suis malheureusement très très cartésien pour certaines choses, mais j'étais quand même intéressé de savoir pourquoi ça avait pris une telle place en France et pourquoi il y avait un tel engouement en fait, parce qu'il y a un engouement. Et je vous disais tout à l'heure que j'allais vous partager un peu mon malaise par rapport à ce sujet, parce que au milieu du sujet, pendant que j'étais en train de l'écrire, je me suis dit je ne peux pas traiter ça de manière légère. Pourquoi ? Parce que ça me faisait penser à exactement à la façon dont on écrivait nos sujets, enfin au sujet qu'on a écrit sur les religions du livre avec toi Camille, parce que c'est beaucoup basé sur la foi en fait, et ce qui est basé sur la foi, c'est un peu difficile à critiquer, parce que t'y crois ou t'y crois pas.
Absolument.
Et là justement, vu que c'est basé sur, on va le voir, beaucoup d'effets placebo, et si la personne y croit et que ça marche, tant mieux.
Mais le truc, c'est que beaucoup de gens qui y croient te diront que non, l'homéopathie, c'est pas du tout basé sur la foi et que c'est de la vraie médecine.
Alors, vous croyez quoi, là ?
Alors, c'est un autre délire, mais commençons doucement. Donc, si on parle de l'histoire de l'homéopathie, c'est un peu difficile de passer outre. Ce cher Samuel Hahnemann,
Tu allais dire Samuel homéopathie.
Exactement.
Italien, homéopathie.
C'est Samuel Hahnemann, désolé, qui est le fondateur de l'homéopathie. Donc, c'est un médecin allemand qui est né en 1755.
18e siècle.
Oh, bien joué.
Sous le règne de Louis XV.
Là, ça va trop loin, c'est compliqué pour moi. Donc, 1755. Et en fait, ce cher Samuel, appelons-le Sam, qui n'était pas trop du genre à se poser dans son cabinet pépouze et à traiter des rhumes et des maux de tête à tour de bras. Non, lui, son trip, c'était un peu de bouger, voyager, de voir des choses différentes et de tester des nouveaux remèdes et potentiellement aussi de les partager. Donc il va essayer de contribuer un petit peu à l'intérêt commun, dirons-nous.
Il était altruiste, quoi.
Altruiste, je sais pas, en tout cas curieux des sciences et un peu homme de science, qu'il se considérait tout du moins. Donc on considère que l'homéopathie, elle a été inventée en 1796, mais c'est en fait la date à laquelle il a publié pour la première
pleine
fois...
Pleine révolution française.
Exactement. Mais donc en fait, 1796, c'est la date à laquelle il a publié pour la première fois un de ses écrits sur le sujet, mais c'est vraiment juste le tout premier shot. Après, il a continué à faire plein de recherches là-dessus. Donc il va continuer ses expérimentations et au début du 19e siècle, il va même commencer à former d'autres médecins à ses pratiques. Et il va y avoir toute une petite troupe, plein de fans qui vont l'accompagner, mais qui vont soutenir ses thèses.
C'est super vieux en fait.
Bah, c'est assez vieux, ouais. Et à cette époque, et jusqu'à la fin de sa vie, globalement, il va être plutôt reconnu dans, pas forcément que le corps médical, mais par les personnes qui l'entourent, donc il était connu pour être quelqu'un qui allait proposer des traitements alternatifs à des pathologies connues. Donc si on te dit, bah tiens, telle infection, ça se traite normalement comme ça, et que t'as un patient qui n'arrive pas à être soigné, bah ce cher Sam, bah lui, il allait proposer autre chose, essayer de trouver des moyens de détourner pour trouver des traitements assez patients qui étaient dits perdus. Ok. Non mais en fait là où cette anecdote est importante, c'est que on ne sait pas si ces traitements qu'il proposait étaient efficaces ou non. On sait juste que bah il s'est forgé une réputation en proposant des traitements alternatifs, mais mm-hmm. c'était potentiellement sur le coup de la chance ou sous, on ne sait pas. Mais il s'est forgé une réputation là-dessus. Il va commencer à avoir donc une petite troupe qui commence à le kiffer. En 1828, il va publier un second ouvrage un deuxième d'ailleurs parce qu'il y en aura d'autres. Donc cet ouvrage était Traité des maladies chroniques, leur nature spéciale et leur traitement homéopathique. Donc il s'est
c'est
carrément...
un peu un gourou, quoi.
Ouais, beaucoup. Voilà. Beaucoup, bah en fait, beaucoup parce que, effectivement, il va avoir des fans partout en Europe, il va écrire plusieurs trucs et vous allez voir, il y a quelques fondements de l'homéopathie qu'on connaît pas forcément qui vont clairement du côté ce qu'on appelle le charlatanisme, mais c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est beaucoup de. Il y a tout un procédé très précis, vous allez voir, je vais y venir. Donc, il commence à avoir une petite troupe de fans. En 1835, à 80 ans, il va se remarier, parce qu'il y a eu un premier mariage, mais là, il va se remarier avec une de ses fans. Cette fan, c'est une meuf qui s'appelait Mélanie.
Ce qui vous arrivera à vous aussi.
À 80 ans. Trop bien.
Bonjour et bienvenue.
Dans cette 122e saison.
Avec une fine équipe. Bon, bah, ils sont morts.
En direct de l'EHPAD. De Château-Thierry.
Ceci dit, si t'es écouté par toutes les maisons de retraite, bon, ça fait du monde.
Pardon, mémé.
Par contre, il faut passer les épisodes forts, quand même. Mais donc, à 80 ans, il va donc épouser une de ses fans, Mélanie Dervilly-Goyer, qui était une Française. Ouh là là, ça aurait son importance. Parce que, déjà, il va passer le reste de sa vie. Le reste de sa vie, les 8 dernières années.
Il est mort vieux ?
Oui, c'est honorable.
Pas mal, 88 ans. Hein. Putain, à force de manger des petites billes de sucre. Mais non, voilà. Donc, jusqu'à ses 88 ans, donc, il va vivre à Paris avec sa femme. Et en fait, c'est notamment pour ça que l'homéopathie a un statut particulier en France plus qu'autre part, parce que sa femme avait des contacts en France et qu'elle l'a aidé à pénétrer des milieux particuliers. Avec
il est mort chez nous et...
Non, c'est surtout qu'il a fait il a pu faire du lobby sur place parce qu'elle avait des contacts. Et c'est notamment, il a commencé à tisser des liens avec l'industrie pharmaceutique, enfin, en tout cas des gens de l'industrie, parce qu'ils critiquaient aussi une partie de cette industrie pharmaceutique. Maintenant qu'on a vu quelle était cette chère personne, avec il faisait des expérimentations, il a une petite troupe derrière lui et tout, on va voir déjà à quoi ça correspond l'homéopathie. Est-ce que vous connaissez les principes fondamentaux? Quelques principes fondamentaux.
Placebo? Non, je sais pas.
Non.
Honnêtement, non.
Même pas un, je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans les petites billes?
Du sucre.
Ça, c'est le tout dernier truc qui n'est même pas spécifique. Pas forcément. Ça peut être à base de plein de trucs. Non, alors le premier principe, c'est le principe de similitude. Alors là, c'est vraiment les bases que lui a posées. Aujourd'hui, il peut y avoir des courants différents, mais là, on va vraiment parler de ce que lui a instauré il y a déjà plus de 100 ans. Quasiment 200 même, d'ailleurs. Donc, principe de similitude. Donc, si, selon lui, c'est vraiment selon lui, si une substance en quantité conséquente peut provoquer un effet X, mettons une inflammation, alors, si on prend cette même substance en très 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 petite quantité, elle devrait aider à soigner une inflammation. Voilà.
Okay.
Je vous laisse là-dessus. Mm-hmm. Donc par exemple, si un champignon provoque de fortes nausées, alors si on prend une toute petite partie de ce champignon, ça devrait aider à soigner la nausée.
Ah, c'est un peu le principe des vaccins.
Sauf que le vaccin, c'est censé entraîner une réaction immunitaire. Oui. Donc là, il y a une base. Mais
c'est ce qu'il voulait faire, peut-être, non?
Bah, il s'est un peu planté, malheureusement. Il s'est un peu planté, pourquoi? Parce que pour avoir une très petite quantité, on fait quoi? Deuxième fondamental, on fait une dilution. Ah, vous savez que normalement, oui. C'est dilué, voilà. Donc,
non, je ne savais pas. Mais
voilà. Okay. L'unité de dilution la plus connue, c'est le CH, c'est le centième anémanien. Donc encore, on voit un peu le trip de gourou parce que en fait, c'est juste dilué au centième. Mais donc pour obtenir une dilution à 1 CH, on prend une dose de substance active pure, du champignon par exemple, qu'on dilue dans 99 doses de solvant, de l'eau le plus souvent. Et donc ça, ça donne une dilution à 1CH. Et pour obtenir une dilution à 2CH, qu'est-ce qu'on fait ?
Je suis très mauvaise en pâtisserie, moi.
On dilue deux fois, ouais, mais on prend donc une dose de 1CH qu'on dilue dans 99 doses de solvant. Donc à chaque fois, c'est comme on divisait par 100, on multiplie par 100 le taux de dilution. Ce qui fait que, en fait, quand on arrive à des dilutions de 30 ou 60CH, c'est énormément dilué. Alors pour vous donner un ordre d'idée, à 6CH, c'est comme si on donnait 10 gouttes de produit dans une piscine olympique de solvant.
Mais non.
Ce qui est pas mal. À 13CH, c'est comme s'il y avait une goutte de substance active dans tous les océans de la Terre de solvant.
Ah oui.
Commence à faire pas mal. Et à 30CH, qui est une dilution plutôt commune, c'est comme s'il y avait une goutte dans tout le système solaire. C'est plutôt pas mal. Le principe...
Mais il faut avoir une balance super précise pour faire ça. Fin...
Bah non, mais c'est vraiment, tu prends une goutte et après tu dilues à la main.
Mais du coup, si c'est une goutte dans l'équivalent de tout le système solaire,
il faut une pipette toute petite
pour prendre qu'un tout petit bout de goutte.
Mais tu n'as pas
suivi. Pas compris le système.
Le principe des dilutions successives, c'est que tu prends. Alors, pour je reprends. Une dilution à 1CH.
Désolé.
Et c'est toi qui suis, hein.
Tu prends une dose. Pour une dilution à 1CH, tu prends une dose, une goutte pure, tu mets dans 99 gouttes d'eau.
Ça, c'est bon.
Ok. Pour une dilution à 2CH, tu prends une goutte de 1CH.
Donc, et tu après, as déjà dilué.
Ah non, mais attends, mais là, c'est plus dilué, c'est surdilué.
Ben si, et un des principes de l'homéopathie, c'est que plus la solution va être diluée, plus elle est censée être puissante.
Luée.
Très bien. La critique qu'on pourrait trouver, comme tu le soulevais si bien, Camille, avec du pipo, la critique qu'on pourrait soulever, c'est que la substance active, elle n'est pas infinie. Si on a mis une goutte de produit, après 12 000 milliards de dilution, au bout d'un moment, il y a potentiellement, tu as un flacon, il y a potentiellement plus que de l'eau. Parce que les molécules, elles ne sont pas divisibles.
Mais tu sais, quand tu te fais un verre d'eau avec du sirop, tu bois la moitié parce que tu as mis un peu trop de sirop, admettons.
Ouais.
Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc, du coup, tu bois un peu, tu remets de l'eau.
Ouais.
Puis ensuite, tu rebois un peu et tu te dis oh, vas-y, je vais avoir encore soif, mais j'ai la flemme de ressortir ma bouteille de sirop. Donc, tu vas remettre de l'eau. Mais là, ça n'a plus beaucoup de goût, en fait, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sirop.
Et c'est un peu ça. 60 fois.
Ouais.
T'imagines, c'est exactement ça. Tu finis ton verre 60 fois et tu le re-remplis 60 fois. Mais à la 60e fois, c'est là que ça aura
aimer le sirop.
Et puis c'est là que ça aura le meilleur goût de la terre. Pourquoi ? Parce que donc on pourrait dire il y a plus de substances actives, il y a plus de sirop, donc tu ne sens plus le goût du sirop. Mais le secret de ce cher Samuel, c'est la dynamisation. Donc selon sa théorie, donc ça c'est vraiment le truc initial encore une fois parce que c'est un petit peu changé aujourd'hui. Mais pourquoi on peut donner du pouvoir comme ça à la solution ? C'est parce que entre chaque dilution, on va dynamiser la solution. Donc entre chaque dilution et la dynamisation, qu'est-ce que c'est ? Initialement, c'était donc on prend un bocal avec la solution et on va le frapper 10 fois sur une surface en cuir. Voilà, 10 fois, et on l'aura dynamisé comme ça. Ça va donner du pouvoir à ce flacon. Autrement dit, on va secouer le flacon.
Ouais,
mais 10 fois, c'est la technique.
Et à quelle heure on égorge le poulet? Pardon.
Je vous l'ai dit, j'essaie de présenter les choses le plus factuellement possible. Même si je ne suis pas...
Désolée, j'ai pas été très factuel.
Non, on est d'accord, c'est pas ouf. Donc aujourd'hui, cette dynamisation, même avec des machines modernes, elle est toujours appliquée, mais avec des machines modernes. Donc au lieu d'avoir une reliure en cuir, une grosse machine pharmaceutique, mais qui va littéralement prendre un flacon et le secouer. Donc vous pouvez trouver des... il y a des documentaires, il y a des vidéos, des reportages qui vous montrent les cycles de création des produits, et c'est vraiment exactement ça. T'as un laborantin ou une laborantine qui prend...
Aujourd'hui, pour les grands trucs, c'est plutôt des robots qui sont...
Y en a pas mal qui les font à la main. Entre guillemets, à la main avec des machines, quoi. Donc,
Oui. Hein ? Quoi ?
Tu prends pas chaque goutte à la main, mais c'est un superviseur qui va faire les dilutions.
Oui, c'est pas un robot qui va tout faire tout seul non plus. Ok, d'accord, oui.
Voilà. Okay. Donc c'est assez ouf, et donc c'est... pour ça qu'on appelle, enfin qu'on dit qu'il y a la, enfin qu'on appelle ce truc-là la mémoire de l'eau, qu'on dit que l'eau a une mémoire parce que bah, même s'il y a que de l'eau à la fin, les partisans de l'homéopathie considèrent que l'eau a gardé la mémoire des produits qui étaient là avant et qu'il y a toujours une action possible de cette substance, alors que bah même il y a aucune substance active dedans, pardon. Donc par exemple si on fait une dilution à base de sel, ce qui est très fréquent parce qu'apparemment c'est beaucoup utilisé en homéopathie, dans le tout dernier truc il y aura pas une seule molécule de sel, et pourtant selon on ce sera ultra puissant.
Oui.
Voilà. Oui. Faisons comme ça. Un des autres principes, et là on va commencer à toucher en fait ce dont on parle moins. Camille se tient la tête.
Ouais. C'est vraiment pisser dans une contrebasse, quoi.
Bah non, parce que quand tu pisses dans une contrebasse, il y a un truc dans la contrebasse à la fin.
Oui, non, mais parce que franchement, j'avais pas d'a priori positif ou négatif sur l'homéopathie avant ton sujet. Et j'avoue que ça me motive clairement pas à m'y mettre, quoi.
Alors, c'est exactement là qu'on va commencer à aborder à la fois la partie chelou, mais aussi la partie complexe.
D'accord, ok, donc, très bien. Non, mais je peux encore changer d'avis.
Ah, oh non, mais je n'irai pas jusque-là.
Ouais,
ah.
Je ne poserai pas une pièce dessus. Hein.
Non, je n'irai pas jusque-là non plus, mais non, en fait, moi, je n'ai pas changé d'avis après avoir vu ça, mais plus je me renseignais, plus je comprenais, enfin, vous allez voir, plus je comprenais la complexité de la chose. Donc, il y a une autre notion qui est la notion de terrain, parce qu'en fait, on croit très fort quand on pratique l'homéopathie, on croit très fort à la notion de terrain. Donc on considère que chaque personne que tout le monde a une constitution, et ce qu'on appelle un terrain, donc c'est en partie héréditaire, et c'est aussi influencé par notre environnement. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer, et suivant notre façon de nous alimenter, suivant comment on dort, etc., ça va aussi nous influencer. Enfin, influencer notre terrain, et le traitement devra être adapté à ce terrain. Donc une personne avec un terrain silicium ou je sais pas quoi, bref, j'ai pas retenu tous les termes, mais elle va avoir un profil particulier qui devra être traité d'une certaine façon. Donc le traitement est censé être adapté. Okay. Donc là, si on regarde justement la pratique, bah en fait, c'est là que la partie intéressante, en tout cas selon moi, arrive, c'est que bah, en fait, il y a une prise en charge qui est extrêmement précise vis-à-vis du patient. Donc, en toute logique, si tu vas voir un homéopathe qui est entre guillemets, qui suit bien les préceptes de l'homéopathie, c'est une personne qui va te poser énormément de questions. Tu vas pas juste lui dire bah tiens j'ai mal à la tête, il va te filer un truc, 3 billes et puis salut. Non, il va te demander, je sais pas comment sont tes parents, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu machins et tout, et il va te donner un traitement extrêmement adapté. Et en fait, il y a des personnes qui ont analysé ça et qui se sont rendu compte qu'en fait c'était une exploitation maximale de tous les mécanismes de placebo qu'on connaissait à ce jour. Et c'est pour ça que je trouve ça à la fois complexe et bah, mine de rien intéressant, malgré le fait que j'y crois pas. C'est que bah, pour commencer, on va prendre le temps de connaître le patient sous plein d'aspects. On va pas juste lui dire ah bah t'as ça, tiens vas-y je te le donne ça, etc. On va s'adapter au profil du patient et pas que aux symptômes, ce qui fait qu'on va avoir l'impression qu'on nous apporte de l'attention, et donc on va avoir voilà un espèce d'afflux positif, et ça ne peut que aider à la guérison. Et aussi on va beaucoup partager avec le patient, on va lui expliquer comment ça fonctionne, etc. Et là encore, on va avoir l'impression que le traitement est très adapté, qu'on comprend, et quand on a l'impression de comprendre, en tout cas, on a de meilleures chances de guérir. Donc, il y a quelque chose que j'avais effectivement oublié de vous dire la dernière fois à la fin du sujet sur le placebo, que je vous encourage à réécouter, parce que c'est pour ça que je ne le réexplique pas là, c'est que vous devriez pouvoir trouver plein d'informations là-dessus. C'est qu'en fait, le placebo peut avoir un effet même si on sait que c'est du placebo. Donc il y a des études qui ont prouvé que il peut avoir un effet pour peu qu'on vous explique très précisément les mécanismes qui entrent en jeu. Donc si on te dit, écoute Hicham, je te donne cette substance, c'est que de l'eau. Vraiment, c'est que de l'eau. Par contre, le placebo, si je t'explique comment ça fonctionne et que je te dis, t'inquiète pas, ça va aller mieux, eh ben, ça va soigner ton mal de tête, etc. Mmh. Si je te dis ça, bah, il y a de fortes chances pour que ça te fasse du bien quand même si tu sais qu'il n'y a rien dedans. Et donc, il y a des études extrêmement sérieuses, et pour le coup, elles sont vraiment sérieuses et bien checkées, qui ont prouvé ça. Et c'est pour ça que, bah, quand dit la science, bah, en fait, la science, elle dit que, bon, bah, comme vous vous en doutez, il n'y a aucune étude sérieuse qui ne prouve l'efficacité de la substance homéopathique. Et c'est pour ça que, j'ai noté en jaune dans mon document, il ne faut pas confondre la méthodologie homéopathique et les médicaments homéopathiques. Oui,
oui, parce que d'autant plus que là, ces temps-ci, je crois que je t'avais envoyé le lien que j'ai vu, il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur le fait qu'on pourrait très facilement lutter contre le coronavirus en utilisant de l'homéopathie. Et c'est
oui,
Boiron qui a fait un démenti carrément en disant « Non, non, mais essayez pas de soigner le coronavirus avec nous, les gars. Voilà. »
Oui, Boiron qui est entreprise, je crois, leader mondial de l'homéopathie.
Ouais, exactement. Ils sont numéro 1 et ils ont eux-mêmes ont dit « Non, non, mais ne soignez surtout pas le coronavirus avec nous. »
Mais les
quoi.
Gens sont cons.
Pour que Boiron soit obligé d'en faire un démenti, c'est qu'il y a quand même une sacrée paire de personnes qui ont dû se pointer dans les pharmacies en disant il paraît qu'on peut soigner quand on a virus.
Je finis vite à 2-3 trucs, après je vous donnerai des exemples de trucs homéopathiques et vous verrez qu'il y a des assez gros délires. Mais effectivement, voilà, Boiron numéro 1 et faut démentir. Et c'est un petit peu dommage. Oui et non, parce qu'il y a une controverse justement vis-à-vis de l'homéopathie. C'est que. Surtout en France, parce que jusqu'à récemment, les médicaments homéopathiques étaient remboursés à 30%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 30%, c'est un effet positif qu'on peut espérer de la part d'un placebo. Donc,
coïncidence,
je ne pense pas. Et c'est intéressant de se dire que, en fait, c'était une partie des prescriptions médicales françaises qui, pour le coup, ne pouvaient pas avoir d'effet négatif autre que le nocebo. Donc, c'est-à-dire que si une personne prenait de l'homéopathie, il ne pouvait pas lui arriver quelque chose de grave, en toute logique, à moins qu'elle croie à quelque chose de grave.
Même si elle en abuse.
Tu vas avoir.
J'en ai avalé moi des petites bouteilles de.
Tu vas avoir un excès de sucre, hein, c'est tout.
De petites boulettes. Hein.
Parce que oui, on parle des petites billes de sucre, mais en fait, c'est juste qu'on prend des billes de sucre, genre littéralement, et on leur met de la solution à 60 CH ou 30 CH ou 200 CH, ça existe, 200 CH.
En général, il faut prendre 3 billes de sucre d'un seul coup.
Ça dépend.
Dans mes souvenirs de quand j'étais petite.
Mais au moins, j'ai trouvé ça assez particulier, mais en tout cas intéressant et en tout cas. C'est très très difficile d'aborder le sujet, on va dire posément, parce que on peut creuser tout ce qu'on veut. Toutes les études qui vont montrer un tant soit peu d'effet des médicaments, je parle bien des médicaments placebo, en fait ils sont biaisés d'une manière ou d'une autre, parce que normalement ça doit être fait en double aveugle, donc ni le patient ni le médecin ne doit être au courant. Donc si le médecin n'est pas au courant, de fait il ne peut pas induire un placebo. Induire de lui-même, en tout cas renforcer l'effet placebo en disant des trucs gentils et tout, et donc ce n'est pas de la méthodologie homéopathique quoi. Mais par contre le médicament il fait rien, c'est du sucre, ça on va pas se voiler la face, c'est du sucre, c'est tout.
Après les gens qui on connaît tous des gens qui disent ah non moi l'homéopathie ça fonctionne super bien sur moi, mais tant mieux pour eux.
Exactement.
Et dans
ces cas-là tant mieux. Et j'avais vu des documentaires qui étaient assez intéressants. Il y a un médecin qui disait voilà, moi je déteste l'homéopathie, vraiment j'ai combattu ça toute ma vie et tout, par contre un jour il y a une patiente qui m'a parlé de ça et j'ai craqué, du coup je lui ai démontré par A plus B que ça marchait pas machin et tout, et elle est revenue le voir genre 2 semaines après en disant docteur maintenant sur moi ça fait plus d'effet, maintenant je fais quoi. Et elle en a pris toute sa vie, elle était très heureuse. Et depuis, genre, elle avait des pathologies qui remontaient. Sauf que vu qu'elle y croyait plus, ça marchait plus. Ouais. Et tu dis, j'avoue, c'est
Michel.
Chaud. Ouais, tu vois, si je suis très terre à terre, mais je suis partagé, en fait, il était content. Donc voilà, grosse controverse, sachant qu'en France, il y a des spécialisations en homéopathie. Donc c'est un cursus, c'est pas un cursus majeur, mais. Comment ?
Sérieux ?
Ouais, c'est une spécialisation complémentaire. Donc, tu sors pas de l'école de médecine en docteur homéopathe. T'es docteur quelque chose et tu peux te spécialiser après en homéopathie. En France, il y a plus de 3000 médecins homéopathes.
D'accord.
Ouais, c'est déjà pas mal. Donc c'est assez ouf, sans compter tous les autres emplois liés dans les laboratoires. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et voilà, c'est vraiment. C'est obscur de ouf, enfin obscur je ne sais pas, mais c'est c'est assez tendu, c'est assez ouf. Et après si vous voulez quelques petits exemples, c'est les plus connus, je vous les donne mais parce que tout le monde ne sait pas, mais c'est rigolo. Est-ce que c'est l'oscillococcinum?
Oui,
c'est un dinosaure qui est né au millième siècle avant Jésus-Christ.
T'as pas vu les pubs oscillococcilo? Non, c'est des
c'est pour lutter contre les états grippaux, non?
Exactement, état grippal, oscillococcilo.
Voilà.
Et tu sais à base de quoi c'est fait?
D'homéopathie, mais non.
Ouais, mais si, c'est de l'homéopathie, mais tu sais, c'est quoi la souche?
Je sais pas, j'en ai jamais acheté, mais.
Mais la souche, tu sais ce que c'est? C'est du foie de canard!
Mais non!
Du foie et des abats de canard. Et c'est marqué, alors tu regardes sur les pubs.
C'est un médicament du Sud-Ouest?
Mais non, mais c'est rigolo parce que justement.
C'est écrit que c'est pas halal?
C'est écrit que c'est du canard. Sérieux. sur les pubs et même sur les boîtes, c'est obligé.
Mais non!
Je te jure.
C'est incroyable!
Et je trouve ça très rigolo parce que tu parlais tout à l'heure de c'est des plantes, etc. L'homéopathie surfe sur cette image de c'est des plantes, c'est plus sain, etc.
On fout du canard dedans!
Il y a beaucoup de métaux qui sont utilisés, de l'argent, de.
C'est des grillettes, quoi!
Ouais, mais pourquoi pas. Il y a du sel aussi, comme je le disais, donc des doigts du genre. Vraiment, il y a des gens qui sont véganes et qui prennent de l'oscillococcinum sans savoir que c'est à base de bon, dans l'absolu, ils doivent pas ingérer beaucoup de canards. Mais il y a quand même des canards qui ont été bons.
Je pense non, que... mais j'allais dire, ouais, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part dans le monde, il y a un abattage de canards. Donc après, visiblement, avec deux canards, il peut faire 8 millions de boîtes.
Je pense qu'il y a un canard qui a été buté il y a 30 ans et qu'on utilise encore. Mais bon. Et après, il y a aussi des dérives. Bon, c'est déjà une dérive pas mal, mais il y a d'autres dérives où il y a des homéopathes qui ont vendu des trucs à base... Enfin, comme je disais, vu que c'est censé être basé sur... le mal, enfin guérir le mal par le mal, donc si ça provoque quelque chose, ça doit pouvoir le soigner. Bah pareil, il y a eu des trucs homéopathiques assez fous qui sont sortis à base de... Alors qu'est-ce que vous utiliseriez pour combattre la claustrophobie, tiens?
Des morceaux de nuages.
Non.
Ah oui, non, faut soigner le mal par le mal.
Ouais.
Et des petits bouts de mur là, non. Du placo.
Oui, il y en a eu avec des morceaux de mur de Berlin.
Génial. J'adore. Voilà.
Et je les ai recherchés, j'ai retrouvé les articles, mais je n'ai pas retrouvé le site. Je pense qu'il a dû être mis hors ligne. Mais bon, voilà, c'est là qu'on est. Enfin, on est les deux pieds jusqu'au cou dans le charlatanisme. Et voilà,
mais ça, c'est plus de l'homéopathie. Là, c'est du foutage de gueule.
Ouais. Oh bah déjà à la base, c'était oui, pas.
Là, c'est clairement ouvert. C'est en mode non.
Bah effectivement non. Et voilà, personnellement pour finir ce petit sujet, j'ai été content d'en apprendre plus et j'ai pas changé mes idéaux, enfin en tout cas mes opinions. Mais en tout cas, quand je croise quelqu'un qui y croit, et
t'es heureux pour lui.
Bah voilà, ma foi. J'essaie pas de convaincre cette personne, parce que si ça lui fait du bien, et bah ça fait moins de substances potentiellement nocives, et tant mieux, pourquoi pas.
C'est vrai.
Voilà, sur ce, je ne vous encourage pas à quoi que ce soit. Oui, exactement. Faites ce que vous voulez vis-à-vis de l'homéopathie, mais en tout cas, perso, j'étais...
Vivez votre vie, soyez libre de vos choix et de vos décisions.
Exactement. Mais ouais, c'était quand même assez rigolo. Et, il me semble que nous recevons un appel de très très loin. Pour nous. Ouais. Ah, le voilà qui arrive.
Oh, putain. Il était bon, le Saint-Nectaire. Ok.
Alors, ça a été, j'ai monté.
Eh oui. Eh bien, bonjour, les amis. Je me trouve dans l'état de Washington, sur un sommet enneigé auquel on est monté à la force des piolets, pour observer avec le groupe francophone d'amis avec qui je suis... ce qu'on appelle nous des cougars, ce qui est appelé ici des mountain lions. Et donc on peut les observer ici à part... C'était quoi ça? Ok, donc on vient de me dire que cette détonation venait d'un tank M60. Attendez, quoi?
What? Qu'est-ce que putain de quoi?
What the fuck?
Eh bien oui les amis, apparemment... lorsque l'on veut déclencher une avalanche, chez nous en France on l'utilise sobrement de la dynamite, ce n'est pas le cas des Américains qui sont américains. Et du coup dans l'état de Washington, eh ben, pour déclencher les avalanches, afin qu'elles ne tombent pas sur les promeneurs, mais bien qu'on puisse contrôler leur chute, eh bien, on utilise deux chars de combat M60 qui sont logés en face des pentes les plus risquées. Et donc on tire des obus sur les pentes à risque afin de déclencher les avalanches. Ah, c'est l'Amérique, quoi. Je vous laisse là-dessus, hein, j'ai pas beaucoup de souffle aujourd'hui.
Ok, c'est un délire. C'est
ça. America.
C'est ça.
Comme tu dis, ok.
En fait, il y a plein de trucs où j'aurais toujours trop aimé être à la réunion où t'as le mec qui propose ça.
Bah,
c'est ça.
Non mais on dirait une idée de Kim Jong-un, quoi. Oh, écoutez, moi pour déclencher mes avalanches, je veux des tanks, les mecs.
Ah ouais.
Incroyable.
Bah non mais sinon il y a des gens qui peuvent mourir. Bah vas-y, on tire au tank. Allez. C'est un délire.
C'est le premier amendement, c'est ça, non? Troisième.
Premier amendement, je crois que c'est liberté d'expression. Troisième amendement, ça doit être la...
Et le quatrième, c'est les tanks, je crois.
Ouais, parce que t'imagines, premier amendement, on a le droit de porter des armes directes, avant la liberté. Mais non, ok, bah encore une fois, bah merci à notre cher reporter. Hein. C'était,
on lui souhaite une bonne descente. Et, pour
oui,
ces
voilà.
Montagnes.
Et heureusement, vu qu'il nous a envoyé ce sujet, on sait qu'il est revenu sain et sauf de ces montagnes. Et on vous enverra d'ailleurs des photos, parce qu'il nous a envoyé une magnifique photo. Il est bel et bien. Pour, alors, pour une fois, ouais, il est bel
vrai.
Et bien allé.
C'est vrai.
Non, pas pour une fois. Il y va à chaque fois.
Oui,
il y va à chaque fois.
Ah bah, mais il voyage beaucoup.
Bah oui, voilà. Et il me semble que notre cher ami Ichouchou nous a prévu un pas un interlude, une fin d'épisode
ouais,
mystique.
Tout simplement.
Ay caramba.
Vámonos.
Mexique, terre de contraste.
Muchacho, caramba.
Vieux proverbe mexicain.
Quoi que vous fassiez, faites comme vous voulez. Olé paso.
Il était à fond pour son jingle.
J'ai rigolé littéralement pendant 20 minutes dans ma chambre en train de faire ce jingle. Bon, comme d'habitude, la question, question habituelle. Si vous dites mariachi, vous pensez à quoi ?
Un gros monsieur moustachu qui joue qui joue de la guitare avec un sombrero.
Moi, je pense à la soirée de Noël de ma boîte en Suède. Okay, on avait fait une soirée mariachi.
Vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est trop bien.
C'est cool. Et puis, du coup, il y avait quoi ?
Il y avait 5 personnes. Il y avait, je crois, 2 trompettes, un violon et une guitare. Ou un truc comme ça.
Très intéressant ce que tu dis. Non, enfin, oui.
Je préfère rester sur le premier truc.
Non, mais c'est bien, parce que justement, le mariachi veut à la fois désigner donc, le style de musique, mariachi.
Et le joueur.
Et aussi la personne qui joue, le groupe.
Ok.
Enfin, le groupe.
Groupe.
Voilà, donc en gros, les mariachis font du mariachi.
D'accord.
Tu vois ?
Très
bien. Tu vois le délire ?
Tu vois,
mais ce que je disais, que c'était super intéressant ce que tu disais, parce que pour que le groupe soit un vrai groupe de mariachi, genre mariachi AOP,
il faut qu'il soit plus de 1.
Il y a des règles. Donc il faut.
Au moins une trompette.
Il faut déjà un violon.
C'est irlandais ça.
Non, c'est bel et bien mariachi. Donc on a notre violon, on a une trompette. Tu as aussi une guitare ou une vihuela. C'est un mix entre une guitare, une luth, un ukulélé. Ça a 5 cordes.
Trop bien.
Et un guitaron. Et la petite blague de Juan, je te laisse la faire ou pas ?
Non, bah non.
Non, ok.
Vas-y, toi.
Je pense qu'à l'audio, ça l'a fait moins. Mais
je
donc,
guitare, tu guitare.
Nous
guitarons. Voilà.
Donc la guitarone, merci Juan, c'est une sorte de petite basse acoustique avec la coque en forme de coque de bateau.
Voilà. Oh, il joue du Brassens là, non ?
Il n'y a pas de percu ?
Il n'y a pas de percu.
Il n'y a pas de.
Non, c'est tout fait à la main, tout fait. Il n'y a pas de maracas.
Voilà, c'était le mot.
Oui, les tutus.
Donc, en gros, il faut un minimum de 4 personnes pour que ça devienne un groupe mariachi et ça peut aller jusqu'à 20 musiciens.
Ah putain, c'est.
Pourquoi pas plus de 20 ?
T'imagines le bordel après.
Déjà beaucoup.
T'imagines.
Le groupe des mariachis sont très, très, peut-être même trop souvent composés que de mecs. C'est malheureusement un milieu très machiste. Mais petit à petit, quand même, les mentalités évoluent et les femmes sont de plus en plus acceptées, même s'il reste quand même...
Il y avait 2 femmes dans le groupe que j'avais eu à Noël.
Ouais, bah, y en a de plus en plus. Et j'avais vu dans un des documentaires que j'ai regardé une dame qui avait rejoint un groupe mariachi qui, au début, se faisait très, très mal regarder.
Shit.
Parce que, justement, les gens, ils étaient mal à l'aise de voir, carrément. Ils arrivaient au point d'être mal à l'aise de voir une nana à côté. Genre, les musiciens à côté, ils étaient pas bien. Et puis après, avec le temps, ils ont vu que c'est une musicienne, elle joue très bien. Ouais.
Oh, sexy.
Mais voilà. Donc, il y a de plus en plus de femmes.
Tant
et
bien.
Elles sont de plus en plus acceptées. Tout à l'heure, je disais que AOP, ça, c'était juste bien évidemment pour déconner, hein, et il n'y a pas de règles à proprement parler. C'est plutôt une musique qu'on transmet à l'oral plutôt qu'à l'écrit.
Mm-hmm.
Donc, même si depuis très peu, c'est très récent, on commence à l'enseigner dans des écoles, à l'université et tout ça, mais traditionnellement, ce n'était pas le cas.
Mm-hmm.
Voilà, c'était juste une petite parenthèse.
Non, mais très bien.
Il y a un vaste répertoire dans le style mariachi.
Ah.
Donc, je vous aurais bien expliqué les particularités de chaque style, mais ça prendrait vraiment trop de temps. Du coup, je vais plutôt vous parler du mariachi globalement. Mais je vais vous donner quelques bases de certains styles en particulier un peu plus tard. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas.
Ouais, vas-y, vas-y. Okay.
Donc commençons déjà par la base, l'étymologie du nom mariachi. Pendant longtemps, on a cru que ça venait du français mariage, parce que ça se jouait pendant des mariages.
Ok.
Et en fait, pas du tout. Les premières traces du mot mariachi apparaissent dans une lettre d'un type qui a écrit à son prêtre, qui s'appelle Cosme Santa Ana, pour se plaindre du bruit du groupe de mariachi en face de chez lui.
Ah, c'est une façon de les nommer, genre les...
Je sais pas, mais en tout cas, le mot mariachi existait déjà dans cette lettre-là, qui date de 1852, soit 9 ans avant l'arrivée des Français au Mexique, donc en 1861.
Ok.
Et c'était une petite, pour Camille, une petite intervention de Napoléon III.
Voilà. C'est ce que j'allais dire, en plus j'allais dire on n'est pas loin de Napoléon III là.
Bah, c'est allez. Ça, c'est, les Mexicains voulaient mettre en place un...
Ferdinand du Mexique.
Ils voulaient mettre un Européen catholique au pouvoir.
Et ça n'a pas duré longtemps parce que je crois il en est mort le pauvre petit Ferdinand du Mexique, je crois.
Je n'ai pas poussé mes recherches parce que ce n'est pas mon but, mais voilà.
J'ai fait mon travail, j'ai fait mes 7 heures, je rentre
moi,
à la maison.
Moi j'ai dit Napoléon III, après tu te démènes.
Comme toi avec les poncifs.
Non, je connais très mal cette histoire là, mais je crois que, enfin bref, il n'a pas passé des bons moments là-bas en tout cas.
Oui, bah, je sais qu'il a perdu. Ouais, c'est... Bref, donc on ne sait pas trop d'où ça vient au final. Hein. Mais l'origine la plus probable viendrait de la langue Coca. C'est une langue extincte qui était parlée par les indigènes mexicains du centre du Mexique. Mm-hmm. Mais vu qu'elle n'existe plus, on n'en sait rien.
Donc en tout cas, une langue pré-hispanique.
Oui, pré-colombienne.
On pense qu'elle viendrait de là. Mais on sait quand même de quelle région... Enfin, d'où est-ce que ça a débuté ? La musique mariachi qu'on connaît aujourd'hui vient de l'état de Jalisco. Donc, c'est au centre-ouest du Mexique, donc à l'ouest de Mexico, qui est la capitale. Elle se serait transformée en mariachi depuis une version d'un orchestre théâtral espagnol qui se jouait déjà dans cette région au 19e siècle. Il y avait des violons, des guitares et une harpe. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. La harpe, c'est exactement ta tête là. La harpe, Hicham.
Oui, je parle comme ça, bien évidemment.
Ça fait, ouais,
c'est quoi cet accent alsacien là ?
C'est la harpe. C'est la harpe de Mexico.
Ouais, non.
Je suis donc totalement d'accord avec toi, Ilias. Ça fait penser à tout sauf au mariachi. Jusqu'à ce que je me renseigne un tout petit peu et que je tombe sur ça. Ça pue le mariachi quand même.
Ouais, mais là, c'est de la harpe endiablée là. C'est
Fire, là. C'est méga stylé.
Super classe,
Esta canción. J'adore. Ouais, franchement, moi, j'aime bien. Et vers la fin du siècle, l'harpe a été remplacée justement par la vihuela, les violons et le guitaron. Parce que c'était plus facile à transporter.
Sans putain
quand tu partais en tournée dans le pays.
C'est surtout, en fait, non, c'est pas ça. C'est que le mariachi se joue en marchant.
Ça joue
en bougeant.
Tarpe sur roulette, quoi.
C'est comme ça dans les carnavals à Nouvelle-Orléans, il y a plus de trompettes que de piano, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, tu peux jouer du piano. Non.
Du piano debout, oui. C'est bien. On la valide, elle est bien.
Donc voilà, pour la harpe, il faut quand même pouvoir bouger. La harpe, c'est pas très pratique. Donc, petite nota au tout début, il n'y avait pas du tout de trompette. Je sais pas si on a marqué là dans les instruments que je viens de citer. Il n'y a pas de trompette, alors que pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment.
Ah, c'est la base.
Exactement.
C'est vachement bien.
Voilà, c'était une petite parenthèse. Mm-hmm. Et donc, le truc, c'est que le mariachi s'est formé avec le temps. Mm-hmm. Donc, tout avait commencé avec l'arrivée de Hernán Cortés en 1519.
Ah, Hernán.
Ouais, avec son bateau El Barco Pim Pam Pum.
Ah, ça, vu comme tu l'as dit, je suis sûr que tu l'as écrit.
Pas du tout. En vrai, je voulais pas la faire, mais vu que tu as relevé Hernán, je l'ai
fait. Génial.
Du coup, Hernán Cortés, il avait fait le voyage entouré de musiciens professionnels, et c'est eux qui avaient des harpes et tout, là. Mm-hmm. Et les aborigènes.
Les aborigènes, je pense.
Ouais.
Oui, les aborigènes, oui. C'est pas des
arbres. Les arbres aborigènes.
Je suis en Ent.
Pocahontas.
Grand-mère feuillage, quoi, mon Dieu.
Ah, les aborigènes avaient leur propre instrument et leur propre style musical. Mmh. Mais ils ont rapidement réussi à gérer et à prendre les instruments européens. Et à ça, tu ajoutes une petite pincée de rythme africain avec les esclaves, qui eux aussi ont ramené leur instrument avec eux. Et
oui, qui bien évidemment étaient malheureusement ramenés par ces magnifiques...
Par Hernán Cortés, mais ouais, après... ouais.
Bon, en tout cas, voilà, tu mélanges
encore,
tout ça.
Encore fait de belles choses.
Tu mélanges tout ça et ils ont fait une belle chose, l'invention du mariachi. Non, c'est pas
c'est horrible.
Non, c'est comme ça qu'on a l'invention du mariachi, en tout cas, la base du mariachi. Okay, okay.
Bah, disons que c'est un mélange, voilà, disons que c'est un mélange de genres, plutôt que de dire que c'est grâce à l'esclavage. Voilà, c'est
encore une fois.
Qu'est-ce que j'allais dire?
Je suis contre.
Tu veux pas nous faire un sujet sur l'histoire de l'esclavage?
Oh, c'est dangereux ça. Donc je disais, il faut savoir que à la base, les mariachis ne sortaient pas trop de leur région. Ils sortaient même quasiment jamais. Chaque état avait son propre groupe de musique et ça s'arrêtait là. C'est ce qu'on appelle le mariachi rural. Okay. Et c'est qu'à partir de la Révolution mexicaine, entre 1910 et 1920,
20e siècle,
que le mariachi a évolué en ce qui existe aujourd'hui.
Le mariachi urbain, du
exactement.
Coup.
Et c'est très fort.
Mais j'écoutais Petit Angéo.
Ouais, c'est bien. Et c'est notamment grâce...
Petit Angéo, est-ce que tu m'entends, Eo? J'ai écouté Petit Angéo.
Ah oui, donc ça part vraiment c'est sur un bail de... Il n'y a rien à voir.
C'est pardon.
Ouais, cool, ok. Donc c'est notamment grâce au groupe Mariachi Vargas de Tecalitlan. C'est un groupe créé en 1898 par Gaspar Vargas dans la ville de Tecalitlan, qui se situe au sud de Jalisco. Donc, ils avaient zéro originalité, les gars.
Oh, le bâtard.
Non, mais
c'est quand même classe.
C'est comme si on appelait notre podcast le Hicham Kami Ilias Juan Podcast. Des Montreuil.
Bah, bien sûr. T'as pas vu les nouveaux flyers. Hein. Ça prend de la place, mais ça en jette. Hein.
Bref, donc, c'est le fils de Gaspar, Sylvestre. Sylvestre Vargas, qui a repris le flambeau de son père, et il est tellement décrié comme un visionnaire dans le monde du mariachi qu'il existe une légende qui raconte qu'ils ont voyagé jusqu'à Mexico. Donc ça fait 700 km quand même, hein. C'est le double, enfin c'est un aller-retour Paris-Pontarlier quasiment. Donc ils ont fait 700 km en jouant de ville en ville avec des standing ovations partout où ils étaient. Il me manque une page.
Donc ils vont de ville en ville. Et ils étaient... T'inquiète pas, je suis.
Ouais, ils jouaient ville en ville avec des standing ovations partout où ils jouaient. Mais en réalité, c'était tout l'inverse. Ils étaient très, très pauvres. Et pour
L'inverse de 700 km ?
De quoi ?
L'inverse de 700 km ?
Moins 700 non. km.
Et ils avaient, quand je dis l'inverse, c'est l'inverse des standing ovations.
Ah d'accord. Putain, d'accord. C'était tout l'inverse.
Ouais, alors, c'est du 1 coup, sur 700. Quoi.
Du coup, ils reculaient.
Ils ont fait un demi-pas.
Ils reculaient de 700 km ?
En silence.
Non, ils étaient très pauvres et du coup, bah, pour reprendre mon expression du moment, je dirais même que c'était la hesse.
très bien.
Ils étaient arrivés carrément au point où ils ont failli mourir de faim, tellement c'était difficile. Ce qui les a sauvés, c'est qu'en arrivant au Mexique, ils ont eu une sorte de contrat avec, avec la police. C'était devenu le groupe officiel de la police. Et ils étaient, je trouve ça super drôle.
Surtout, ils étaient à deux doigts de s'appeler police, ça aurait été trop drôle. Oh zut, c'est déjà pris.
Mais non, ça veut dire que quand la police arrivait, plutôt que d'avoir les sirènes, t'avais les mariés qui suivaient derrière.
J'avoue. Oh shit, shit.
N'importe quoi.
Tu te fais arrêter de façon positive.
Quel est con.
Eh, tu prends une amende, mais ça, la gueule.
Bref, ils étaient enfin payés, mais ça leur a quand même pris 10 ans pour en arriver là où ils sont. Enfin, c'est devenu vraiment the group de mariachi que tout Mexicain qui se respecte connaît. Ils ont, j'aime bien parce que vous pouvez pas me contredire.
Mais surtout,
mais là, on te croit là.
Je connais pas de personne qui vient du Mexique.
Mais justement, peut-être parce qu'il n'existe pas. Ils ont fait donc le tour du monde avec des concerts en France, au Japon, au Mali, en Thaïlande, tout ça. Alors que c'était vraiment très difficile. Donc, n'abandonnez pas vos rêves, les enfants.
Oui, exactement.
Donc, au début, Vargas ne voulait que des instruments à cordes dans son groupe parce que bah, il était old school et, comme je vous l'avais dit, à la base, il n'y avait pas de trompette. Mais vu que tout le monde aimait ça... Bah,
la trompette, c'est chouette.
Ah, ouais. Vargas était un peu forcé à ajouter des trompettistes. Et c'est là où son génie intervient. Il a certes recruté un inconnu, mais qui deviendra quand même le plus grand trompettiste de l'histoire des mariachis. Et c'est vraiment... Le
Luis
top
Mariano.
Trompette quoi. Ouais. Mais épuré, c'est exactement ce que j'allais dire Luis Mariano. Alors c'est... que le mec, on l'a jamais vu avec une trompette. Quoi.
Là, il s'appelle Miguel Martinez.
Bah, donc, Miguel, Michel.
Mais c'est un triple gagnant.
Ouais.
Donc j'ai envie de dire chapeau monsieur, ou dirais-je sombrero senior. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre.
J'aime beaucoup ce sujet.
Merci. Donc, en plus de ça, il y avait un certain Rubén Fuentes qui a rejoint les Mariachi Vargas en 1944. Ce type n'avait jamais joué dans un groupe de mariachi. Enfin, n'allait pas. C'était quand même un musicien, hein. Ne pensez pas qu'il jouait au triangle ou quoi que ce soit.
Ah, parce que les gens qui jouent du triangle, c'est pas des musiciens.
Si, mais c'est pas un...
Oui, percussionniste, monsieur.
Voilà, exactement. Ouais. C'est un métier, monsieur.
Monsieur est commissaire de police.
Non.
Donc alors
il a joué quand même du violon et de l'accordéon avec l'orchestre de son père. Mais en tout cas, lui, il était vraiment fort dans la théorie. Il a appris rapidement le style. Il a fait que... Et le fait qu'il connaisse bien justement la théorie, ça a changé le mariachi game. Il a mélangé les deux et ça a transformé le style mariachi dans les années 50.
Ok, quand tu dis la théorie, c'est genre la théorie musicale.
Théorie musicale, solfège, tout ça. Et donc, les Mariachi Vargas ont donc révolutionné la musique mariachi. Mais il y a aussi d'autres raisons qui ont fait que c'est devenu méga populaire au Mexique, mais aussi partout dans le monde.
Bah oui, clairement.
Dans les années 30, par exemple, c'est grâce à la radio que le mariachi touche une grande partie du monde. Les gens découvrent tout simplement cette nouvelle musique et cette façon si particulière de chanter. C'est un peu comme le chant gospel est unique dans son genre. Oui, Camille.
Mais justement, vraiment, je ne voudrais pas faire une fixette sur cet homme, mais Luis Mariano et son tube Mexico. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du mariachi ou pas ?
Ah, bonne question.
Honnêtement, moi je connais juste Mexico.
On a chanté les parisiennes.
Vu
comme c'est parti.
Il faut compter les instruments.
Ah. Eh ben écoute, on regardera le clip plus tard et tu nous diras. Okay. Voilà, très bien.
Parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin maintenant que tu le meumeutes un peu, ça.
Mais je crois pas.
Ok, bon, on regardera.
Ouais. On regardera, exactement. Okay. On analysera.
Bref, donc, contrairement au flamenco, qui est quasiment toujours triste, la musique mariachi est tout l'inverse, c'est quasiment toujours gay.
C'est vrai que c'est festif, ouais.
T'as plusieurs Mexicains qui disent que la musique mariachi guérit les âmes et rend les gens plus heureux.
T'en as comme un fil conducteur dans les épisodes.
c'est l'homéopathie. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a un style de musique mariachi qui s'appelle la canción ranchera. Donc ranchera vient de rancho. Donc un ranch, une ferme quoi, c'est un des tout premiers styles. Donc rappelez-vous, avant la révolution, c'était du mariachi rural.
Oui, logique. Voilà.
Mais bref, donc la canción ranchera a pour thème la trahison dans l'amour.
Et l'ambiance à la campagne,
ce que j'allais dire.
Et on l'entend bien avec cette chanson de Vicente Fernández, Por tu maldito amor, qui veut dire pour ton putain d'amour. On va l'entendre chialer. T'as vu? C'est en train de
barrer. Bon, ça c'est moi. Ah ouais, il joue de ouf là.
Ouais, et franchement, le clip, c'est une putain de tuerie. J'ai partagé ça avec vous, mais personne ne l'a regardé. Et du coup, je partage avec...
Je l'ai vu, mais je l'ai pas regardé.
Non, franchement, au début, j'ai juste cliqué pour essayer de trouver une musique de ce style-là. Mmh. Et c'est le best clip ever.
Ah,
c'est le meilleur clip mexicain que j'ai jamais vu de ma vie.
Et pourtant, je m'y connais en clip mexicain.
Pourtant, j'en ai vu 4, alors.
Bon, donc, il y avait ça. Sinon, il y a aussi les serenatas.
Música mariachi.
Música. C'est un peu le style de musique pour le Romeo Mexicano.
Ça, j'aime bien.
Ça se joue toujours à l'extérieur, sous le balcon de ta dulcinée. Et c'est aussi un peu le Tinder de l'époque.
C'est le Brassens mexicain, là.
Ah, on dirait un peu le début de Les Sardines, de Bastille.
Mais ouais, donc c'est soit elle kiffe et donc elle swipe à droite et elle t'invite à rentrer, soit elle kiffe pas, elle swipe à droite et
à gauche.
À gauche et elle ferme la fenêtre.
Il chame le consentement. C'est pas toujours oui. Quand c'est non, c'est non. Hein. Quand ça swipe à gauche, c'est non.
Et du coup, c'est fini pour toi.
Okay. Mais donc du coup ça voulait dire que pour draguer la donzelle, tu faisais venir tous tes potes du lycée et tu chantais
C'est un peu ça, et c'est justement un des styles de musique le plus chiant à faire pour les musiciens, parce qu'ils sont toujours à l'extérieur quand il fait froid. Bah, ils ont des instruments, donc ils sont obligés, ils peuvent pas
prendre de gants. Il n'y a pas de mariachi de salon, quoi.
Non, enfin si, mais moi je te parle des sérénades.
D'accord, oui, ok,
voilà. C'est cool, je savais pas que ça venait de là, jouer les sérénades, c'est cool.
De quoi ?
Bah jouer la sérénade.
C'est peut-être ça, pas l'origine.
Ça vient... je pense que ça vient pas que de là. Oui, ça se retrouve même en Europe. Ça se retrouve dans plein d'endroits.
Bon, en tout cas, c'est proche. J'aime bien. Voilà. J'ai envie de bien aimer.
Je vais passer maintenant à un dernier genre. Et même si les puristes refusent de catégoriser ce style comme un style mariachi, il existe de l'opéra mariachi.
C'est moins dansant.
Si. J'ai juste choisi la fin. Et t'imagines ça au château de Versailles hein.
Ah bah on signe, ah on, bah, signe. On signe.
Ah, je serais trop chaud.
On signe de l'opéra mariachi, attends.
En tout cas, bref, comme je vous l'ai dit en entrée, il y a plein de styles de mariachi différents. T'en as un où les paroles parlent de paysages, de nature, de la vie à la campagne, sur des personnages connus, même des moins connus ou des moments précis de l'histoire. Je peux en parler encore pendant un long moment, mais revenons plutôt à comment est-ce que le mariachi a eu un tel succès. Donc, je vous ai dit tout à l'heure la radio, mais il y a aussi le cinéma. Ah. Déjà, avec le cinéma muet, on jouait du mariachi.
Ah oui, oui. Et en bande son, quoi.
Ouais. Et ça a continué aussi avec le cinéma,
pas muet,
pour le coup, et surtout avec les westerns.
Ok. Non, je n'avais pas pensé avec les westerns.
Mais ça fait sens.
Mais avec les westerns de l'Amérique centrale ?
T'en avais déjà de l'Amérique, oui, enfin l'Amérique centrale, mais aussi chez les Américains.
Ok, mais c'est génial, tu sais, t'imagines la scène de duel, ils se regardent, et déjà,
Ouais, au moins, il y a des morts, mais il y a de l'ambiance. Hein.
Bah, c'est de la mort festive chez nous.
Bah oui.
Oui, c'est super, la mort festive. Et une autre chose qui fait que le mariachi est connu par beaucoup de personnes dans le monde, c'est le traje de charro, qui veut dire le costume charro. Donc ça n'a rien à voir avec ma tweedy. Les fouteux qui ont compris cette référence, faites-moi signe sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que je me sens seul.
Ouais, avec Camille,
Je suis sûr qu'ils ont, ils sont pas compris.
On ne pipe mot, comme on dit.
Donc, envoyez-moi. Je t'ai compris, chouchou. Et donc, voilà.
38.
Donc, c'est le costume.
Okay.
C'est le costume qui est largement inspiré par les cowboys. Et tout le monde est habillé pareil.
D'accord.
Déjà, ils ont tous le même style. Et ils ont le fameux sombrero. Mm-hmm. Donc, au tout début, ça n'existait pas. Les joueurs de mariachi portaient tout simplement leur plus bel habit pour les fêtes.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais qui arrive en claquette fille là, bon, j'ai que ça.
Hein. Ouais, mais, et puis s'ils n'ont pas un habit qui est aussi beau pour aller faire la fête, c'était juste un habit blanc que les Indiens et les paysans portaient.
Ok.
Ouais, c'était tout sobre, tout simple.
Bah, pourquoi pas.
Allez, on enchaîne avec le dernier point qui est la danse. Donc avant, la musique mariachi et la danse ne faisaient qu'un. Tu ne pouvais vraiment pas les séparer. Mmh. Cette danse s'appelle jarabe. C'est la danse qui accompagne les mariachis. C'était carrément devenu la danse nationale du Mexique.
Mais du coup, attends, c'est eux qui dansent en plus en jouant de l'instrument ?
Non, t'as des danseurs.
Donc Philibert avec sa harpe ?
Pas clair, quoi, j'allais dire.
Non, c'est t'as des danseurs.
D'accord, ok.
C'est une danse qui tourne autour du chapeau. Mais genre, littéralement, genre, tu poses ton sombrero au sol et puis tu tournes autour et tu danses autour. Et les Américains, ils appelaient ça « the Mexican hat dance ».
Ah, d'où, d'où le fait que ça a été popularisé de ouf Oui, il y avait un truc sur ça.
Ils ont vraiment appelé ça la danse mexicaine du chapeau.
Ouais, mais ils sont perspicaces.
Ah bah ils ont du flair.
Ouais.
C'est des fins limiers, ouais.
Ils sont forts. Et je vais finir par cet extrait de chanson parce qu'elle s'appelle Jarabe Tapatio et surtout parce que vous la connaissez tous et c'est le cliché ultime du Mexique.
Caramba! Olé, gracias, chouchou.
Très bien, tu m'as trop donné envie.
Écoute,
j'en écoutais dans mon Uber du retour là.
Mais ouais, j'ai trop envie de regarder.
Franchement, au début, c'est trop cool, c'est trop drôle, mais j'ai bossé tout le dimanche à écouter.
Est-ce que tes colocs te détestent ?
Non, parce que je suis gentil et je mets des écouteurs, mais j'en peux plus. Mais
Époque, quand tu préparais tes sujets sur Vivaldi, tu mettais pas d'écouteurs.
Mais oui, parce que moi.
En vrai, j'aimerais trop regarder un film mexicain avec une BO mariachi, ça va être trop bien.
Bah, je peux t'en enfiler, quelques-uns.
Je suis trop chaud. Parce que je pense que ça doit mettre une ambiance de ouf. C'est un peu comme les. J'avais regardé Chat Noir, Chat Blanc, et, où c'est de la musique manouche. Et c'est. Enfin, non, musique des Balkans plutôt. Okay. Aussi, Balkans / manouche. Et ça met une ambiance de ouf dans le film. Enfin, ça teinte vraiment tout le film et c'est très cool. Donc je serais curieux de voir un truc similaire avec Mariachi.
J'avoue. Moi perso ça me tente pas, mais je te passerai.
Ouais, très bien. Tu ne seras pas forcé de te joindre à ce visionnage. Voilà. Tu pourras swipe left. Bon bah c'était très chouette en tout cas. Merci.
Ouais, on a bien rigolé.
C'était un cool épisode. Mmh.
Bah, j'ai beaucoup kiffé. Et puis bah on espère que vous aussi.
Oui.
Ça fait longtemps qu'on vous l'a pas dit, mais vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram,
Twitter.
Voilà, sur on est également sur Apple Podcast, Spotify. Donc si vous voulez nous faire plaisir, ça nous fait toujours. Ouais, Deezer aussi. Deezer. Si vous voulez nous faire plaisir, ça fait
Magellan.
Non mais ça nous fait toujours plaisir d'avoir soit 5 étoiles si c'est possible sur l'application que vous utilisez, soit un petit message, c'est toujours cool, c'est toujours sympa, ou partager ce podcast avec d'autres personnes, parce que on est content quand il y a d'autres personnes qui nous écoutent, et puis ça nous permettra de faire d'autres salles.
Et n'oubliez pas qu'on est ravis aussi de recevoir vos suggestions de sujets.
Oui, très bon point.
Ouais.
Suggestions de sujets et photographie de cancoyote. Voilà. C'est pas un
mais oui,
c'est
mais
pas
manger
une façon
de la cancoyote, là on est sur de l'hiver et tout,
d'ailleurs,
faut survivre.
Alors, pour ne rien vous cacher tout à l'heure, on est parti sur un bail de potentiellement faire gagner des trucs à base de cancoyote, mais.
Ouais,
voilà.
C'est ça, là. C'est ça voilà. Comme histoire.
On aura peut-être un concours à vous proposer.
J'y suis pour rien.
Sinon, des micro-annonces. C'est intelligent de le garder à la fin. Déjà, dans tous les cas.
C'est là où on voit les puristes.
Exactement.
Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de l'épisode, dites. Tartiflette.
Voilà, si vous nous envoyez tartiflette ou que vous partagez tartiflette sur les réseaux sociaux, on saura que vous écoutez jusque là. Ceci étant dit, et on attend vos messages, attention. Ceci étant dit, donc la prochaine fois, on devrait avoir une nouvelle invitée et on a hâte de vous la présenter. Et puis, on approche bientôt des 3 ans de Pardon Maman.
Oh putain.
Et on se souhaite un joyeux anniversaire.
Donc c'est bientôt 3 ans, donc cette année on va encore certainement fêter ça dans un petit bar parisien. On vous invitera à boire quelques bières. On va pas se mentir, comme tous les ans, certainement plus que de raison. Mais voilà, ça me ferait bien plaisir. On vous partagera les détails dans les jours et semaines qui viennent.
En espérant qu'il n'y aura pas plus de 1000 personnes dans ce bar-là.
Oui. Normalement, ça devrait aller.
Bah, au pire, t'avais dit qu'on faisait ici, non, au studio.
Ah, en vrai, c'est un truc qui me ferait kiffer un jour. Mais peut-être pas tout de suite, on verra.
Des créneaux.
Ouais. Non, mais peut-être un jour. Je vous cache pas que peut-être un jour, parce que ça me ferait kiffer une petite soirée
studio
privée.
Studio ouvert.
Voilà, une petite soirée privée dans le studio, pardon, maman.
Proposez-nous des trucs à faire chez.
Alors, ok, je veux bien m'engager à ça. Envoyez-nous des idées de soirée à thème. Et alors, je vous jure que si vous faites ça sérieusement, on envisagera sérieusement la chose. Soirée à thème et on vous dira ce qu'on peut faire.
Et puis, pareil, du coup. Enfin, moi, je pense qu'on peut, avant de parler du live au Micropolis de Besançon, on va peut-être attendre de voir ce qu'il en est du Covid-19. Parce que c'est peut-être mis en question à cause de ça. Mais c'est vrai que sinon, on devait faire 8 dates au Micropolis de Besançon.
Ouais. Je t'avoue que...
Parce que d'ailleurs aussi, on demande aux auditeurs de nous écouter par tranche de 1000 personnes en même temps.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que sinon, ils vont annuler par nos mamans et ça serait dommage.
Voilà, jusque-là, on est très contents que vous le fassiez. On n'a pas eu d'alerte de la haute autorité de la santé. Donc,
tout va bien.
On touche du bois.
Fait pas chier encore.
On touche du placo.
Lavez-vous bien les mains avant et après de nous avoir écoutés.
Avant d'appuyer play et pause à chaque
fois. Voilà, exactement.
En vrai, oui, ça serait bien parce que les téléphones sont dégueulasses. Bon, sur ces bêtises, c'était un grand plaisir de partager une heure et demie avec vous cet épisode. Dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode, une nouvelle invitée.
Et on vous aime.
Beaucoup d'amour. Et peut-être que d'ici là, on aura reçu vos propositions de soirée à thème et on a vraiment hâte de vous dire ce qu'on en a pensé. Sur ce, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns et les unes des autres. Mon Dieu, c'était difficile.
Aimez-vous les uns les autres, disait un grand homme.
Et maintenant,
des bisous. Et puis, portez-vous bien. Allez,
ciao.
Veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Vulgaire.
Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.